Bonjour à tous, je voyais plein qui cherchaient le titre de cette chanson. C'est Mother, Mother c'est le titre. Et le groupe semble être The Big Let Down. Big Let Down, Mother. Voilà. Ce que FRSI80 vient de nous mettre dans le chat d'ailleurs. Le titre, la chanson, le groupe, tout ça. Comment ça va vous? Pas trop tôt ce matin. Hier j'ai lancé, il était 8h30, 8h45. Il est plutôt 9h43 là. Pourtant j'avais pris de l'avance, j'avais commencé à lire les journaux tard hier soir. Du coup j'ai mis mon réveil plus tard ce matin parce que je m'étais dit ok, les journaux sont lus. Et puis en fait, et non finalement j'ai un petit peu de retard. Voilà. Mais enfin l'important c'est qu'on ait une belle actu. Et puis que nous sommes en double stream. Double stream aujourd'hui, mais oui parce que c'est le vendredi. Normalement je stream pas le vendredi matin parce que la soirée va être belle, va être chargée avec le retour de l'hebdo Étienne. Mais comme j'ai été empêché de streamer deux jours cette semaine, justement pour préparer l'hebdo Étienne et pour préparer Samplay, la saison 1 qui commence dimanche soir, donc avec Étoile, j'ai posté un petit visuel hier. Et bien, je me suis dit, allez, on va streamer. On va streamer ce matin et on va streamer ce soir. Quoi. Voilà, donc je suis là. On va parler de Trump, du mugshot, on va parler de l'affaire Yevgeny Prigogine, notamment, on va parler du trafic de drogue en France, on va parler du Digital Service Act, hein, l'encadrement des plateformes numériques. En France, ça rentre en vigueur aujourd'hui, pardon, petite toux, je suis en pleine forme. Et d'abord, un petit coup d'œil à ceci, c'est-à-dire l'affiche de l'émission de rentrée de quoi ? De la saison 2 de l'Hebdo Étienne qui reprend ce soir. Voilà. Donc, voilà, c'est à 20h ce soir. Valérie Damido fait son grand retour, elle est en pleine forme. Sunday, la streameuse, c'est sa première fois. Je suis très content de la recevoir. La journaliste du Huffington Post, du HuffPost à Street de Vilaine est de retour. Et Mimi Hegel, journaliste blogueuse, de retour également. Voilà, donc trois habitués, quatre avec Papy. Et Sunday qui vient pour la première fois. On va se régaler, on a des beaux thèmes, je vais vous dire d'ailleurs. Je vais vous dire les thèmes. On a des chouettes thèmes. En fait, ce que je fais le jeudi soir, c'est que... le jeudi soir, il y a quatre Astro Boy qui dit waouh, bravo la parité, on s'en fout. On s'en balaie avec d'une puissance, moi je m'en fous en fait. Garçon, fille, moi je veux juste des gens sympas, des gens avec, que j'aime bien et qui s'intéressent à l'actu. Quoi. Alors parfois il y a quatre mecs, parfois il y a quatre filles. Peu importe en fait. La parité elle est là, mais elle est là sur l'année. Quoi. Alors, si les habitués le savent, si vous prenez la saison 1 de l'Hebdo Étienne, c'est simple, c'est mathématique, c'est carré. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune émission sur Twitch. Il n'y a aucune émission sur Twitch. Il n'y a aucun talk sur Twitch qui n'a invité l'an dernier autant de femmes en valeur absolue, en nombre de femmes et en proportion. Aucun. Voilà. Donc la parité, c'est chez Bibi. Alors voilà, donc, là, il y a 4 femmes. Demain, sera peut-être 4 hommes. Mais l'important, c'est qu'au final, effectivement, il y a un effort de parité. Mais ça ne se fait pas à l'émission. Quoi. Voilà. Et pour ça, par contre, il faut se farcir les 35 émissions de l'année. Et pas juste se taper les visuels sur Twitter, quoi. Voilà. C'est la différence entre réfléchir sur Twitter, c'est-à-dire en quatre signes, quoi, et puis réfléchir sur 3 heures d'une émission, etc. Quoi. Voilà. Donc, après cette parenthèse, donc retour de l'Hebdo Étienne ce soir 20h avec 3 jolis. Je peux vous le dire les thèmes. Hein. On va faire un petit coup de. Je pense que je vais rajouter Trump. Ouais, on est obligé de rajouter un petit coup de Trump, ça va être ma carte blanche. Un petit coup de mugshot. On va parler de l'affaire Yevgeny Prigogine, la mort du chef de Wagner, ça c'est obligé. On va parler de viande. Parce que c'est ce que je fais moi le jeudi soir, donc quand les enfants sont couchés, je reprends tous les journaux de la semaine et je me dis ok, dans toutes ces actus, quels sont les trois principaux thèmes ouais, qui peuvent faire débat, qui peuvent mériter d'aller plus loin. Donc j'ai mis Prigogine bien sûr, Trump en carte blanche puisque chaque invité a droit à une carte blanche et je suis invité de ma propre émission. Et puis on fera la viande aussi hein, puisque Le Monde faisait un dossier sur la consommation de viande en France qui ne baisse pas tant que ça alors qu'on sait que c'est un outil essentiel pour réduire nos émissions de CO2, donc il y a un débat assez intéressant là-dessus. Et puis le troisième thème, qu'est-ce que c'est déjà? Le troisième thème ce soir, qu'est-ce que j'ai proposé à mes invités? Le troisième principal hein, puisqu'en fait il y a aussi des cartes blanches. J'ai envoyé ça aux invités hier soir à minuit passé. Donc la viande sera le troisième thème. Ah oui, C'est sec, mais c'est sympa. Le budget 2024. Le budget 2024, la soupe à la grimace, disait le Figaro cette semaine. Un budget avec une ambition de réduction de la dette. Donc, il faut faire des économies. Il n'y a pas de hausse d'impôts, mais il y a une hausse des taxes. Il y a une baisse des, il y a une baisse de certains avantages fiscaux. Et puis, il y a des budgets qui vont être cut, qui vont être coupés, notamment la santé. Et ça met notamment en colère Valérie Damidot. Donc, elle voulait en parler. Donc, on a une jolie actu ce soir. Voilà pour les menus de ce soir. Et puis, il y a des cartes blanches. Papy Sam va amener sa carte blanche sur Trump. Donc, c'est une petite info dont on va débattre rapidement. Je sais que Mimi Hegel et Sunday voulaient parler de la précarité des créateurs de contenu sur Internet avec une agence d'influenceurs là, qui vient de déposer son bilan. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Et puis Astrid aura une carte blanche poésie, parce qu'Astrid est une grande passionnée de poésie. Bon, vous en pensez quoi? C'est cool, hein? Pas mal, le programme. Sunday, me dit Nassou, c'est une très bonne idée. Elle est déjà bien habituée des talk shows avec le stream et les Nintendo avec Ken Bogard. Cool. Samuel, est-ce que tu es au courant que tu passes une tête dans le docu sur Carlos Ghosn sur Netflix? J'ai vu ça hier. Non. Je suis sur Netflix. Non, je savais pas. Carlos Ghosn? Ils ont dû prendre quoi? Un extrait de journal, sans doute. Je pense qu'ils ont pris un extrait de JT ou sur France Info. Quand on suivait ça, ce feuilleton, vous savez, quand il s'est enfui du Japon, là. Je pense, hein, mais je ne savais pas que j'étais sur Netflix. Allez, je vous lis un petit peu vos premiers bonjours, et puis on va commencer cette revue de presse avec une revue de presse express pour commencer, pour donner en quelques minutes l'essentiel de l'actualité à ceux qui ne peuvent pas rester 2 ou 3 heures avec nous ce matin, ce que je peux comprendre aussi. Exutoire, merci pour le 12e mois d'abonnement, c'est un joli anniversaire. Woody, merci pour ce 2e mois d'abonnement. Gaëtan, merci pour cet abonnement. Belette 38, j'allais dire que ça sent la Bretagne, pas du tout, Belette. Non, c'est l'hermine qui est le symbole de la Bretagne, je dis n'importe quoi. Je vois un bonjour de Salzbourg. Mozart, non, c'est ça. Hein. Merci Belette 38 pour le 5e mois d'abonnement. Lili Plus, comment vas-tu? Les habitués sont là. La preuve, 22 mois d'abonnement. Moi aussi, je suis content que l'hebdo Etienne revienne. La Bicialette, merci pour le 2e mois d'abonnement. Rainbow 86, merci pour le 15e mois d'abonnement. Torrent 371, merci beaucoup pour le 6e mois. Natman pour le Prime. Andy Joy pour le Prime. Shamgrad pour l'abonnement. Vous êtes formidables. Et Filoutre à l'instant. Merci beaucoup pour ce prime. Pardon, j'avais oublié de remercier les premiers subs. Nono 124 à l'instant. Qui tente le Capricorne pour l'horoscope, mais ce sera dans 2 ou 3 heures. Arnaque-moi si tu peux. Je ne sais pas me servir de Twitter. Je suis vraiment une quiche. Me dit arnaque-moi si tu peux. Écoute, j'étais au téléphone il y a quelques minutes avec Bruno Solo, le comédien que j'aime beaucoup, qui va venir dans l'hebdo Étienne. Il m'a... Pardon. Je suis en pleine forme. J'ai fait un test Covid. C'est pas le Covid. Sinon, j'aurais annulé l'émission. Tout va bien. Ah, excusez-moi. Une mission importante. Ok. Il faut que je prenne un taxi pour les enfants. Et après, je vous dis ce que m'a dit Bruno Solo. Le suspense est intolérable. Alors, je prends un taxi pour les enfants. Voilà, parce qu'ils ont de l'activité ce matin. Je peux pas les emmener. Hélène non plus. Alors, excusez-moi. Donc, j'ai promis. Voilà, c'est parti. Et on va. Je ne vous dis pas où vont les enfants, mais ils vont bien s'amuser. Non, comment ça s'appelle déjà? Ah, j'ai oublié. Il faut que je demande à. Comment s'appelle le lieu où on va? What's the name? Excusez-moi. J'ai oublié le nom. Désolé, la vie de famille s'immisce parfois dans ce stream, mais c'est tellement important. Voilà. Il faut que je prenne le taxi, mais j'ai oublié le lieu. Et donc, Bruno Solo me disait, puisqu'il vient dans une... Ah ouais, c'est vrai, j'ai trouvé. Désolé pour ce... C'est un peu... Voilà, j'ai trouvé. Donc, je vous dis pas où vont les enfants, mais c'est un chouette endroit. C'est un endroit où on s'amuse. Hein, c'est un peu les vacances. Ouais, ça, j'ai trouvé. Et hop, là. Donc, il y a, ouais, hop, voilà. Il y en a un à Londres. Alors, c'est pas celui-là. C'est plus près. Et c'est parti. Voilà, c'est magnifique Internet. Hein. Voilà. Voilà. Et Bruno qui vient donc dans une hebdo Étienne très bientôt, m'appelait ce matin donc à 8h30 pour me dire, hey, je viens de me rendre compte que le jour où je viens, ah voilà. Excusez-moi, c'est très décousu et haché, mais c'est important. Je finis mon histoire de taxi et je suis à vous. Hop, et j'envoie ça, la fiche du taxi. Voilà. Normalement, on est bon. Je suis désolé. Après, on est tranquille. C'était ma mission de ce matin, ça. Voilà. Le taxi is here. Moquez-vous. Hein. In 4 minutes. Voilà, excusez-moi. Oh, je suis désolé, je suis confus. Donc, arnaque-moi si tu peux, disais, je sais pas me servir de Twitter, je suis vraiment une quiche. Bruno Solo, qui m'appelait ce matin pour me dire, attention Sam, le jour où je viens, le 8 septembre, je crois, eh bien, c'est l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Ce match de fou, France-Nouvelle-Zélande. Ok. Et il me dit, ben, moi, il faut que je voie le match, quoi. Et je pensais qu'il allait me dire que je viendrai une autre fois. Et il me dit, si on faisait l'émission plus tôt, c'est en direct, hein, j'ai échangé avec lui ce matin. Et si on faisait l'émission plus tôt, ouais, c'est le 8 septembre, exactement. Bruno, il vient le 8 septembre. J'ai déjà calé les trois autres invités d'ailleurs, mais je ne vais pas tout vous dire. Donc, et si on faisait l'émission plus tôt? Et en fait, on en avait déjà parlé ensemble, et il y avait plein de gens dans le chat qui m'avaient dit, mais moi, Sam, le 8 septembre, à 20h-21h, t'oublies, hein, moi, je suis devant France-Nouvelle-Zélande, ce que je peux comprendre, d'ailleurs, parce que moi aussi, j'ai envie de voir le match. Vous savez ce qu'on va faire? Suite à la proposition de Bruno, on va essayer d'avancer l'émission à 17h-20h, voilà, on en parlait, Pépin Camille, hier, voilà, 17h-20h, l'hebdo Étienne le 8 septembre. Je vais proposer ça aux trois autres invités. Si c'est validé, let's go. Ça veut dire que, bah, du coup, vous pourrez voir l'hebdo Étienne et vous pourrez voir le match de rugby. Voilà. Et ça, c'est une propale de Bruno. Et pourquoi je vous parle d'Internet, tout ça, de Twitter? Parce que Bruno, en fait, il y a un thème qu'il voudrait aussi aborder, ce serait sa carte blanche. En fait, lui, il n'est pas du tout sur les réseaux sociaux. Aucun. Bruno Solo, il est sur aucun réseau social. Il sait que ça existe. Hein. Il est au courant, il suit tout ça. Ses enfants lui en parlent et tout. Il ne veut pas y être. Voilà, il a un rapport très particulier aux réseaux sociaux. Et je trouve ça très intéressant. Voilà, et il viendra en parler avec nous. Quoi. Voilà. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal, hein ? Voilà. Voilà. C'est pour ça que je vous parle de l'appel de Bruno ce matin, parce qu'il y a une double info. Un, l'émission du 8 septembre sera sans doute avancée. Et deux, on parlera peut-être des réseaux sociaux. Et bien sûr qu'il y aura un thème rugby. Il y aura un thème rugby, bien sûr. Bruno, par exemple, lui, c'est un fan de rugby. Et il a envie de parler des valeurs du rugby, même si avec la professionnalisation du rugby, ça change bien sûr. Il veut parler des valeurs du rugby et notamment des valeurs du football, parce que c'est aussi un passionné de football. Et il trouve que ces valeurs sont malmenées avec tout ce qui se passe autour des égos, de l'argent, des départs récents de joueurs en Arabie Saoudite, tout ça. Quoi. Voilà. Manquez pas cette émission du 8 septembre parce qu'elle va être pas mal. Je supputais. Salut Gigi, bonne journée, reviens, tout est en replay. Je supputais que Bruno s'intéressait à l'actualité, mais je pense que ça va être un super invité. En plus, c'est quelqu'un qui est vraiment charmant. Je ne l'ai jamais invité sur Twitch, mais je l'ai croisé plusieurs fois au cours de ma longue vie de vieux machin. Et c'est quelqu'un qui est à l'antenne comme en coulisses, c'est quelqu'un qui est vraiment extrêmement charmant, gentil, d'une simplicité folle. Quoi. Donc on va se régaler. Voilà. Et puis entre fans de café, vous devez bien vous entendre. Il est fan de café, Bruno ? Oui, il est parfait, il est parfait. Mimif35, merci beaucoup pour le 6e mois d'abonnement. Ma rigolote, joli pseudo, merci pour le 10e mois. Darling56000, les Morbihanais sont dans la place. Merci pour le 13e mois d'abonnement et pour le très gentil message, c'est adorable. Vous êtes vraiment charmant. AzuGamer, merci beaucoup pour le 19e, c'est beaucoup, 19e mois d'abonnement. Super news du décalage de l'hebdo Étienne, si ça passe, merci à toi. On va faire ça, vous inquiétez pas, on va faire ça. En plus, moi aussi, j'ai envie de voir ce match, quoi. Ah, référence à Caméra Café, je suis con. Ça, je comprenais pas. Ah, Bruno, il aime le café. J'avais pas, mais bien sûr. Caméra Café, mais je suis con. Ouais. Si, la rêve, je l'aime, mais j'ai pas pensé. Pourtant, je suis caféiné. Hein. Très bon. Aurélange, merci pour le 14e mois. Nuno124, merci beaucoup pour le 10e mois d'abonnement. Vous êtes formidable. Ah oui, Caméra Café, je suis bête. Captain McBernie confirme, je l'ai déjà rencontré une fois. Bruno Solo, il est super sympa. Allez, je vous relis un petit peu. Je remonte très haut dans le chat avant notre échange sur le rugby. Alors, je vous lis. Oui, il y a une, t'as raison, ouais, il y a Broubou 06, il y a les modérateurs qui mettent dans le chat qu'il y a une nouveauté sur l'hebdo Étienne, puisque j'ai communiqué au modo la liste des sujets hier soir. Voilà, ils ont mis ça sur Discord, sur le Discord. Et du coup, eh bien, vous pouvez réagir sur le Discord, le lien est dans le chat ici, pour à ces thèmes. Voilà. Et ce soir, j'essaierai de prendre certains des commentaires pour faire réagir les invités. Voilà, donc en fait, les viewers, vous, via le Discord, en plus du chat, totale interaction, ça devient fou. Hein, on est en 2097. Vous pourrez réagir pas seulement via le chat, mais également via le Discord. Je lis le message de Broubou06. Vos réactions seront sélectionnées, puis transmises à Samuel qui s'en servira pour faire réagir les invités. Les sujets seront publiés la veille au soir ou le matin de l'émission. Voilà. Qui a eu cette excellente idée? Eh bien, c'est pas du tout moi. Ce sont les modos qui m'ont m'en ont parlé. Hop, le taxi est arrivé. Je le signale à la petite famille. Hop. Excusez-moi, l'intendance. L'intendance. Tac. C'est ça. Oh, excusez-moi, je suis désolé de faire ça. C'est important. Que les enfants arrivent en toute sécurité. Voilà, excusez-moi. Voilà, après c'est fini. Hop. Voilà. Ah, le numérique. Formidable. Voilà. Donc je pense que c'est OK. Je vais quand même suivre le déplacement du taxi. Un passager à bord. OK, ils n'ont pas besoin de moi. Ils sont déjà partis. OK. Allez, je vous lis encore un petit peu. Pour les nouveaux, les nouvelles ici, sachez qu'on ne dépasse pas les 30 minutes de bonjour et de blabla. J'adore échanger avec vous. Je passerai ma vie à lire vos commentaires parce qu'on rigole bien. Mais à un moment, il faut que je fasse un petit peu d'actu aussi. Donc, je me suis donné une règle. Pas plus de bonjour, de salam alek au-delà de 30 minutes. Voilà. French Yu-Gi-Oh! En parle et la presse en parle aussi, je vous en ai parlé tout cet été, enfin surtout au mois d'août. Il y a une croissance au niveau des cas Covid, hein. Voilà, il y a un nouveau variant, là il y a un variant qui est en train de s'imposer en France, qui est pas super méchant dans le sens où il envoie pas un max de gens à l'hôpital, mais qui est hyper contaminant, hein, on est très facilement contaminé, y compris en extérieur. Et French Yu-Gi-Oh nous dit, j'en parlais hier avec ma compagne et puis hier soir après le dîner elle a perdu le goût, plus rien, test à la maison positif, voilà. Je savais pas qu'il y avait les rediffs sur YouTube. J'ai raté tout le mois d'août, me dit Mathilde Baron. Mais si, effectivement, toutes les rediffs sont mises gratuitement sur YouTube. Tous les replays, juste après. Là, cet après-midi, à 13h, tu as le replay de ce stream de ce matin. Demain, tu auras le replay aussi de l'hebdo Étienne. Tout ça gratuitement sur YouTube. Pardon, je suis en train de rattraper mon retard dans le chat. Yaz Madoka, merci pour le 17e mois d'abonnement. Merci pour tout ce soutien ce matin. Merci. Hein. Keija 4, merci pour le Prime. Ren DNG, merci pour le 8e mois d'abonnement. Mimif 35, remercie à nouveau. Ah, vous saviez pas pour le replay, mais si. Oh, c'est mignon. Je suis actuellement au bout du Finistère. Le bout du Finistère, c'est vraiment le bout du bout, parce que Finistère, c'est la fin de la Terre. C'est le bout du bout déjà. Alors, le bout du Finistère, c'est le bout du bout du bout du bout. C'est Astro Boy qui est dans le Finistère. Chez ma grand-mère, c'est grâce à toi que j'ai pu lui expliquer Twitch en partie. Yes! J'aime cette idée de passerelle entre les générations. Vive Question pour un champion. Merci à toi. Question pour un champion. Qui cartonne? Ça, c'est grâce à vous, peut-être. Voilà. Les audiences sont juste top. Les audiences en tant que telles, c'est juste des chiffres, mais c'est aussi l'assurance qu'une émission peut durer dans le temps. Et là, je peux vous dire que tout va bien. Question pour un champion qui, dans quelques jours, va changer d'horaire, va être un peu plus exposé et en étant diffusé un peu plus tard, non plus à 17h45, mais à 18h10. Si vous regardez Question pour un champion, à partir de... C'est pas le lundi qui vient, c'est le lundi d'après. Ce sera à 18h10. Voilà. Alors, excusez-moi, je lis. Alors tout le monde, C'est trop mignon. J'ai une photo des enfants dans le taxi. Ils sont contents. Oh, quel bonheur. Quel bonheur. Quel kiff. Voilà, le jésuite, il l'a depuis 4 jours, le Covid. J'ai réussi à attraper la semaine dernière. Et Zil, exactement. Pareil avec ma femme, monsieur Miganon. Voilà, on y est. Voilà. Ouais. Ok. ProWealth, j'en profite Sam pour te remercier. Suite à la découverte de Sarah Coppona dans l'hebdo, je regarde énormément ses lives, super fan. Sarah Coppona, c'est excellent ce qu'elle fait. Carrément d'accord. Carrément d'accord. Ils sont forts ces modos, ouais. C'est vrai, c'est clair. Pas mal, hein? Dinguerie ce stream interactif, dit BrenWasher69. Carrément. Carrément. Je l'ai inauguré, me dit MG7F. Hâte de voir ça, hein. J'espère que je vais réussir à l'intégrer bien, quoi. Oui, les invités de ce soir ont été communiqués. Alexander, donc je vous remets ça. Voilà. Et puis je vais vous dire qu'il y a un petit changement aussi sur les thèmes. Donc voilà, ça c'est ce soir. Mes quatre invités de ce soir, Valérie Damido. Donc l'animatrice, la comédienne, Sunday, la streameuse, Astrid de Vilaine, la journaliste, Mimi Hegel, la journaliste et youtubeuse. Alors, comme on a vu que l'émission quand même se densifiait de plus en plus et avait tendance à durer de plus en plus longtemps et je voulais pas abuser de votre temps et du temps des invités, je suis allé jusqu'à 5 thèmes parfois. Désormais, l'Hebdo Étienne, c'est 3 thèmes. 3 thèmes. Donc ce soir, on fera Prigogine, l'affaire Yevgeny Prigogine. On fera... la dette en France, le projet de budget, les restrictions, notamment au niveau de la santé, tout ça. Deux thèmes. Trois, la viande, la consommation de viande, le rapport avec l'environnement, l'écologie, les émissions de CO2, tout ça, tout ça. Trois thèmes, voilà. Et puis, des cartes blanches, des petits thèmes que les invités voudront amener. Par exemple, Valérie, elle veut parler de wokisme. Okay, bon, encore foutre le feu dans le chat, ok. Sunday et Mimi, elle voulait parler de la précarité. Des créateurs de contenu avec la faillite récente d'une agence d'influenceurs. Et Astrid, elle voulait parler de poésie parce que c'est son kiff. Trois thèmes, trois cartes blanches, voilà. Allez. Et on essaye de pas dépasser 3 heures, voilà, pour pas abuser ni de votre temps ni de celui des invités. On va densifier. Et puis, alors bon, il y a plein de nouveautés de forme parce que on a investi comme des fous. Donc vous allez voir au niveau de la déco, au niveau de la lumière, j'ai fait appel à un copain qui bosse en télévision. Qui ne fait que ça, c'est son métier de faire de la lumière, parce que je trouvais que la lumière était améliorable, notamment sur l'hebdo Étienne. Donc il y a un gros travail sur la lumière, j'espère que ça va se voir. Voilà, il y a un gros travail sur le son, on tente des choses ce soir, on va essayer de passer tout le monde en micro HF pour que les invités aient une vraie liberté et pas, tu vois, quand ils sont pas habitués à l'inviter, ça bouge beaucoup par rapport au micro et ça parle beaucoup à droite et à gauche du micro et ça se recule. Par rapport au micro et on les entend plus et vous râlez dans le chat et même les habitués, même les streamers. J'ai des streamers super habitués que je vais pas nommer. On est en mode oui, voilà, moi je voulais dire que non, pas du tout, c'est là. Donc ça nous a saoulé. Je passe tout le monde en HF ce soir, donc gros investissement. J'espère que ça va marcher. Un petit peu de déco aussi, voilà, même si c'est pas mon point fort, pour faire un truc joli. Donc sur la forme des changements et puis sur le fond, voilà, on va essayer de densifier tout ça aussi, quoi. Et puis l'ami Eric. Cheat Meal Hero, vous savez, qui est venu assez souvent faire la cuisine aux invités, ouais, comme dans certaines émissions, quand vous avez un chef qui fait la cuisine pendant l'émission, et eh ben Eric, il va venir tous les vendredis. Tous les vendredis soirs, Eric, streamer Cheat Meal Hero, voilà, passionné de plein de choses, et notamment de cuisine, sera là pour régaler les invités et accessoirement l'animateur, quoi. Voilà, ça c'est les nouveautés de l'Hebdo Étienne. Pas mal? Vous en pensez quoi? Les modos vont avoir du boulot aujourd'hui, courage, me dit Malof. Sur cette chaîne, les modos, ils ont un taf de fou, je les salue. Alors, tout le temps, on parle que de choses qui fâchent, hein. On parle de l'actu, quoi. Ça te coûte combien une émission pareille, dit Tony? Cher. Cher. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai besoin de partenariats, de parrains, de sponsors. Là, par exemple, France Télévisions est le parrain de cette émission, était le parrain l'an dernier et l'est encore cette année, et sans ce parrainage, sans soutien financier, il n'y aurait pas l'Hebdo Étienne, hein, parce que financièrement, ce serait pas possible. D'autant que là, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup investi, mais vraiment, quoi. Et puis, pareil pour Ça me plaît, dont je vais vous parler dans un instant, où là aussi, sans les parrains, c'est impossible. Impossible. Voilà. caméra dans la cuisine. Yes, normalement, Chacha Oval, il y aura une caméra dans la cuisine d'Eric. Ouais. Comment arrives-tu à être rentable, Kerry Books? Bien, je viens de vous répondre. Voilà. Sans le parrainage, sans le soutien, ça ne marche pas, quoi. Voilà. Alors, je ne vais pas vous détailler les frais, parce que je ne vais pas vous dire qui coûte combien, voilà, parce que ça, je pense que les principaux intéressés ne seraient pas forcément partants, voilà. Mais ouais, bon, il y a un budget, quoi. Voilà. Il y a un budget. Joe est prêt, Joe est toujours prêt, David. Voilà. Donc ça, c'est l'hebdo Étienne, et c'est pas tout, puisque attention mesdames et messieurs, et dimanche 20h, il y a ça aussi. Voilà. On a testé le concept en juin avec Ken Bogard et avec Kayane dans deux émissions test, qui ont si bien marché que ça vous a plu. Bon, voilà, il y avait du monde, ça m'a fait plaisir. Et puis, ça a aussi plu à deux partenaires, hein, qui sont Boulanger et Lenovo, voilà. Et qui ont accepté de parrainer cette émission. Donc, dimanche soir, la vraie grande première de Samplay, l'émission consacrée à l'univers du jeu vidéo, tous les dimanches à 20h. Le concept, il est super simple. Un quasi-centenaire, moi, qui a joué pour la dernière fois en jeu vidéo en 1988, et c'est vrai, conscient de son retard, voilà, décide de s'immerger dans l'univers des jeux vidéo avec des passionnés et des spécialistes. Voilà. Et donc, tous les dimanches, vous aurez un amoureux. Une amoureuse d'un jeu qui vient me le faire découvrir, me raconte son histoire, me raconte sa philosophie, pardon, et joue avec moi, bien sûr. Voilà, donc on a joué avec Kayane Street Fighter, on a joué avec Ken Bogard à Super Mario. On s'est régalé, je me suis régalé, et donc là, c'est une émission qui devient hebdo, et on a 31 numéros, donc 31 jeux qui arrivent là, et le premier, c'est avec Étoile et Super Smash Bros. Bon, évidemment, avec Étoile, de toute façon, c'était évident. Étoile, Rayou étant mon parrain sur Twitch, pour moi c'était l'invité idéal pour la première fois, quoi. C'est une façon de boucler la boucle qui n'est pas bouclée d'ailleurs, qui n'est pas terminée. Voilà. Et donc c'était important pour moi. Heureusement qu'il pouvait, parce que moi, j'aurais été embêté que ce soit pas lui. Et après, bon, j'ai déjà calé les six premières émissions, et je suis content parce que je m'étais fait un petit peu une shortlist idéale des gens que j'aurais envie de recevoir, parce que 31 émissions, ça va aller vite. Et en fait, bientôt, les gens que je contacte me disent yes, quoi. Voilà, parfois, on a du mal à caler une date parce qu'ils sont très occupés, mais les gens vont venir, les streamers, les gamers, les gameuses vont venir et me faire découvrir ces jeux. On va rigoler, quoi. Ça va être cool, hein. Ouais. J'espère qu'il va être gentil, qu'il va pas trop me massacrer. Ouais. Mais monsieur Etienne, savez-vous que Étoile, quand il s'agit de Smash, il ne montre aucune vergogne. Il avait massacré son pauvre petit cousin la dernière fois qu'il avait joué avec lui. Je sais qu'il avait massacré son pauvre petit cousin, mais moi je vais lui demander d'être en mode pédago, quoi. Hein. Il faut qu'il m'explique, il faut qu'il me raconte. Voilà. Donc on va jouer, mais peut-être qu'à un moment il y aura une séquence tabassage. Mais l'idée, c'est voilà, de comprendre pourquoi sa passion pour ce jeu, pourquoi sa passion pour le jeu vidéo, quel est son rapport au jeu vidéo, tout ça, quoi. Voilà. Parce que l'idée, c'est de parler à la fois à un public de passionnés et de spécialistes. Certains d'entre vous, ah, les 30 minutes sont passées, on va y aller. Merci beaucoup, Bizox. Hop, j'arrête ça. Mais aussi un public qui me ressemble, moi, c'est-à-dire un public parfois âgé ou parfois moins âgé, mais qui n'a pas une très très bonne culture de jeux vidéo. Or, je crois qu'aujourd'hui, au vu de l'importance culturelle et économique qu'a pris le jeu vidéo, il faut s'y intéresser. Comme on s'intéresse un peu à tous les sujets. Et bien, cette émission, ce sera un petit peu une séance de rattrapage pour les gens comme moi qui sont un petit peu à la bourre. Voilà le concept. 20h ce soir, l'hebdo Étienne, 20h dimanche, ça me plaît. Ok? On va faire des jeux, bien sûr, on va faire tous les jeux, carrément, tous les gens en jeu. Je remercie le dernier sub et je vous fais une revue de presse express, c'est-à-dire un petit sommaire pour ceux qui ne peuvent pas rester 2 heures. J'ouvre ma petite tablette. Vous êtes vachement nombreux, hein, de bon matin comme ça. Je vois dans le chat, il y a beaucoup, beaucoup de messages. Allez, Icoc, merci pour le 4e mois d'abonnement. Rimac BTC, merci pour le 13e mois d'abonnement. Merci beaucoup pour le petit message. Flo 645, merci pour le 2e mois. Pulsar, Quasar, Nebula, merci pour le 17e mois d'abonnement. Les habitués sont là. Jean-Christophe, j'ai désolé, t'as pas une notif, mais merci à toi. Yasmadoka, merci pour le 17e mois d'abonnement. Et je crois que KGA4 et RenDNG, je vous ai déjà remercié, mais dans doute, je le refais. Est-ce qu'on y va? On y va? J'ai un yes. Bonjour Alexandra, bienvenue. L'horoscope, c'est tout à l'heure.
Yes!
Prêt? Go? Est-ce que j'ai un yes? Et ben c'est parti. Ok. Boum! Ça commence très très fort. Alors, c'est pas dans vos journaux ce matin. Ils n'ont pas pu le prendre en compte puisque ça s'est passé cette nuit pour nous, hier soir aux États-Unis. Le mugshot, comme on le dit, hein, de l'ancien président Donald Trump, mugshot, c'est photo d'identité judiciaire en bon français. Donc, ce n'est pas dans vos quotidiens ce matin, mais ce n'est pas pour ça que ce n'est pas une information essentielle. D'ailleurs, ce sera sûrement la une de vos journaux demain. Alors, c'est quoi un mugshot? C'est une photo d'identité judiciaire. Pourquoi c'est une photo historique, comme je le dis dans ce tweet que j'ai commis tout à l'heure? Parce qu'en fait, jamais, un président ou un ancien président américain n'avait fait l'objet d'un mugshot. Jamais. Hein, c'est la photo des prisonniers aux États-Unis. Alors lui, il a été prisonnier là. Très brièvement. Hein, puisque la photo a été prise lors de son arrestation temporaire à Atlanta. C'est une vraie photo. Hein, c'est une vraie photo. C'est la vraie photo. C'est la photo officielle. Dans le cadre, parce qu'il y a eu plein de photos détournées assez rigolotes. Dans le cadre de son inculpation, l'une de ses 4 inculpations, pour avoir tenté de changer le résultat de la dernière présidentielle en Géorgie. Voilà. Alors, inculpation historique aussi, puisque jamais un président américain n'avait été inculpé par la justice américaine. Lui, il l'est déjà 4 fois. Voilà. Ce que je dis aussi dans ce tweet, c'est que ça ne le dérange absolument pas qu'il y ait cette photo. Bien au contraire, hein, puisque vous savez que l'ancien président Trump est en campagne pour obtenir l'investiture républicaine pour la prochaine présidentielle, donc se présenter à nouveau pour tenter de redevenir président, et ce sera sans doute contre Joe Biden, le président sortant. Donc il y a une compétition actuellement au sein du parti républicain. Trump est très largement en tête devant tous les autres candidats, donc sauf énorme rebondissement, Trump va être le candidat républicain, donc on va avoir un re-Biden-Trump à la prochaine élection. Et en fait, comme il s'est rendu compte que plus il avait des poursuites judiciaires et plus sa cote de popularité montait auprès de ses supporters, de ses fans, persuadés qu'il s'agit d'un complot, puisque c'est ce que lui dit, hein, c'est un complot l'état profond, notamment, enfin bref, et notamment des gauchistes, puisque Biden est un gauchiste, dans les mots de Trump. Bref, puisqu'ils sont persuadés que c'est un complot, et bien plus il y a des poursuites, et plus il y a ce genre de choses, comme ici ce mugshot, eh bien, plus sa cote de popularité monte auprès de ses sympathisants. Donc ça lui va tout à fait, il va en jouer, son équipe en a déjà joué, puisque avant même que cette photo ait été prise, ils avaient publié sur les réseaux sociaux un montage, un autre mugshot, fabriqué par l'équipe de campagne de Donald Trump, en disant qu'il était innocent, quoi. Voilà. Là, je vous résume l'essentiel. On va essayer de trouver un petit article sur Internet, du coup, auprès d'une source d'information de qualité, puisqu'il n'y a rien dans la presse écrite de ce matin, pour la raison que j'ai évoquée. Je vais vous lire un petit peu sur Trump, peut-être. Il y a le Squirrel TV qui dit salut à toi. Après, bon, critiquer les politiques étrangères. Moi, c'est pas de la critique, là, c'est des faits. Enfin, moi, quand je dis c'est une photo historique, jamais un ancien président n'a eu un mugshot, jamais un président américain n'a été inculpé, on est au-delà de l'actu, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire. C'est-à-dire que dans les manuels d'histoire des enfants dans quelques années, il y aura ça. C'est de l'histoire. C'est pas de la critique, c'est juste que c'est jamais arrivé. Donc c'est plus que de l'actualité, c'est super important. C'est-à-dire passer à côté de cette actualité, en fait, ce serait une énorme erreur, parce qu'en fait, c'est un marqueur de l'histoire des États-Unis et puis de l'histoire même des régimes démocratiques, parce que ça pose plein de questions. Là, on a quand même un ancien président qui a tout fait pour annuler, pour transformer le résultat de la dernière présidentielle. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire du pays. Donc c'est essentiel dans un pays dont le fonctionnement est scruté par le monde entier, parce que c'est la première puissance économique et militaire d'ailleurs, mondial. Donc ça n'est pas anecdotique. Et j'entends ce que dit le Squirrel TV. Le Squirrel, il dit critiquer les politiques étrangères. Donc là, on ne critique pas, hein, c'est des faits. Toi, tu peux critiquer si tu veux, ça après c'est l'analyse. C'est mignon, mais on pourrait commencer par s'occuper des nôtres. Le nombre de casseroles des membres de notre gouvernement est ahurissant. Mais les casseroles des politiques français, on en parle aussi ici. Hein. Et donc, c'est pas parce qu'on parle de Trump qu'on va pas parler des problèmes autour des politiques français. Et c'est pas parce qu'on ne parlerait pas de Trump qu'on parlerait mieux des casseroles des politiques français. Ça n'a rien à voir. Donc, moi, je parle de ça parce que je pense que c'est essentiel. Mais j'entends ce que tu dis. Yaka Faucon, j'aime ton pseudo et merci pour le 23e mois d'abonnement. Il y a Tiklem qui me dit, mais il ne doit pas avoir une expression neutre, normalement. Je pense que c'est une expression neutre, ça. En vrai, mon premier sentiment quand je vois cette photo, c'est qu'il l'a réussi, Trump. Parce que, bon, je suppose qu'il choisit pas sa peau. C'est pas... Je suppose qu'il n'a pas choisi son cliché. C'est le shérif, on verra dans un article. C'est le shérif qui a décidé qu'il y aurait mugshot. Hein. Alors qu'il aurait pu tout à fait ne pas avoir mugshot. Je vous expliquerai pourquoi, c'était pas du tout une obligation. Bon, le shérif d'Atlanta a décidé qu'il y aurait mugshot, et je suppose qu'il a pas donné le choix à Trump du cliché, quoi. Et en vrai, c'était important en termes de com', il fallait vraiment... Voilà, comme cette photo va faire le tour du monde, et notamment va être vue par tous les Américains, il était important qu'elle soit pas trop ratée pour Trump. Et en vrai, elle est réussie pour lui, là. Regardez, il fait pas une tête de fou, il est plutôt à son avantage, hein, il est pas en tenue orange de prisonnier. Il est plutôt à son avantage. Il a l'air. Qu'est-ce que dit son regard? Moi, c'est mon analyse. C'est le regard d'un homme déterminé. Hein. C'est un regard accusateur, en fait. Hein. Il accuse l'objectif. Il est en mode. Mais pourquoi Moi, ce que je lis ici, c'est pourquoi vous me prenez en photo? Je suis innocent, quoi. En vrai, je trouve que, en termes médiatiques, cette photo, elle est réussie. En tout cas, il limite la casse, quoi. Pour ses partisans, c'est même du pain béni, quoi. Je trouve, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Masso67, merci pour le 13e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Oui, il a payé une caution de $200,000 pour sortir. Auguste. Ah, une caution de $200,000 pour Trump, alors que ses frais judiciaires s'élèvent à des millions de dollars. 200 000, c'est une blague. Hein. D'ailleurs, c'est une polémique parce que ses adversaires disent que, vous savez, il fait beaucoup appel à la générosité de ses militants, de ses soutiens pour payer ses frais judiciaires qui sont énormes. Bon, là aussi c'est historique, jamais un ancien président n'avait dépensé autant d'argent en frais de justice, voilà, pour des raisons évidentes. Et en fait, il ne touche, a priori, disent ses opposants, il ne touche pas sa fortune personnelle, voilà. Il finance ses frais de justice énormes, millions de dollars, avec les donations de ses sympathisants, de ses militants, qui parfois sont issus de la classe très très populaire aux États-Unis, et ne touche pas à sa fortune personnelle. Donc ça, c'est une des accusations menées par ses opposants, quoi. 200 000 dollars, que dalle. Je vous lis un petit peu sur Trump. On essaiera de trouver un petit article frais du matin et vous verrez qu'il y avait un article dans le Figaro de ce matin anticipant ce mugshot qui est assez bien fait. Je pense qu'il a répété la photo, me dit Clamakin. Oui, peut-être. Mais vous êtes plusieurs à me le dire d'ailleurs. Trophée, il a dû s'entraîner des heures devant la glace. Ouais. Franchement, je trouve qu'il réussit son coup là. Et peut-être qu'il s'est entraîné. Ouais. Tu vois, il est pas trop orange. Vous en pensez quoi? Il joue à fond la carte du rebelle face au système, dit Tardaf. Exactement. Mais en vrai, cette photo, tous les analystes aux États-Unis sont d'accord là-dessus. Cette photo, pour lui, c'est du pain béni. Hein. Pour sa campagne, en victime du système, en victime d'un complot, en victime des gauchistes, en homme innocent, bon, malgré toutes les preuves qui ont été rassemblées par ceux qui ont instruit les quatre inculpations, eh bien, c'est pour lui, c'est du pain béni, quoi. Et ça va jouer fort dans la campagne. Là, il se positionne en victime déterminée, c'est l'avis d'Awanse. Pourquoi cette photo est-elle sortie? Parce que je crois que c'est une photo qui n'est pas un cadre privé. Je crois que toutes les photos de mugshot en fait sont publiques. C'est question pour un oignon, joli pseudo qui pose la question. Là, tous les partenaires, entre guillemets, de Trump qui sont également inculpés ont eu le droit à leur mugshot aussi et ils ont aussi été publiés. Hein. Voilà. Cyril est d'accord, hein. Elle est clairement réussie cette photo. On dirait une photo de campagne électorale, dit Zatanagor. Il a vraiment réussi son coup. Hein. Ouais. On verra dans l'article du Figaro, par exemple, que le shérif lui avait dit bah, venez, venez à telle heure, il y a beaucoup moins de monde. Voilà, en début d'après-midi, je crois. Et puis il a dit non, moi je vais plutôt venir en fin d'après-midi, voilà, juste avant le début de la soirée. Sans doute pour qu'il soit sûr que ça fasse un maximum d'écho juste avant les grands JT aux États-Unis. Quoi. C'est ce que dit le Figaro. Voilà. Nadrezine 2 dit je n'aime pas du tout ce personnage, mais d'un point de vue purement graphique, composition, lumière, cette photo est très réussie, je trouve. Voilà. Je vous lis, je suis en train de vous lire. Comment Trump peut-il avoir le droit de se présenter après l'histoire du Capitole de Montmeurs 00? Alors on a vérifié ici, rien dans la Constitution américaine n'interdit une personne condamnée à se présenter. Il y a quatre conditions au niveau de l'âge, d'être né sur le sol américain, je ne sais plus quelles sont les autres, mais rien n'interdit une personne condamnée de se présenter et rien n'interdit même à une personne en prison de se présenter. Voilà. Donc, voilà. Pourquoi jouer son jeu et relayer Samuel? Parce qu'en fait, c'est une actu incontournable, en fait. C'est parce que, encore une fois, on est au-delà de l'actu, là, c'est de l'histoire. Jamais un président américain n'avait fait l'objet d'un mugshot. Et moi, je ne choisis pas les actus en fonction de ce qui me plaît, de ce qui ne me plaît pas. Cette info, elle est plus forte que moi. Je ne vais pas commencer ce stream en disant, tiens, aujourd'hui, on va parler plutôt de la modération des réseaux sociaux et puis... de ce film qui est sorti hier parce que ça me hype à mort. J'ai pas envie de parler de Trump parce que ça va lui faire de la publicité. D'ailleurs, bon, je dis que cette photo va jouer son jeu et va l'aider dans sa campagne auprès de ses partisans. Après, je sais pas si vous êtes des partisans de Trump, je suis pas sûr que cette photo vous fasse changer d'avis, en bien ou en mal d'ailleurs, sur Trump. Je pense pas que vous soyez les principaux concernés. On est au-delà de l'actu, c'est de l'histoire, c'est énorme en fait, c'est énorme. Donc il faut l'analyser. Si cette photo est réussie, je crois qu'elle est réussie, il faut le dire. L'actu, c'est pas trouver dans les infos ce qui nous plaît, ce qui nous séduit, ce qui nous va, ce qui va dans notre sens. L'actu, elle s'impose à nous, quoi. On va lire l'article du Figaro. Donc s'il est élu, il va s'autogracier, demande Brainwasher. Oui, ça aussi on l'a vérifié. S'il est élu à nouveau, le président Trump peut tout à fait s'autogracier de ses délits et ou crimes fédéraux. En revanche, alors c'est intéressant, il ne peut pas le faire pour des décisions de justice rendues au niveau d'un État. Et là ce qui est intéressant, c'est que l'inculpation, elle concerne l'État de Géorgie. Donc, s'il était élu, il ne pourrait pas s'autogracier de cette éventuelle, parce que le jugement n'est pas tombé, hein, décision judiciaire en Géorgie. Il a pas la main dessus, quoi. Voilà. Je vous lis parce que je vois beaucoup de réactions. Et vous avez raison, c'est un sujet vraiment essentiel. Sam Hype. C'est vrai que ça pourrait être Une nouvelle émission, ça. Je remercie Cret75 pour le Prime. Je remercie Rustios pour le Prime. Masso67 pour le 13e mois d'abonnement. Et maintenant, on va essayer de se trouver là, maintenant, en direct, tout de suite, un article de qualité qui aurait été mis en ligne ce matin, puisqu'il n'y a rien dans la presse écrite, c'est normal, c'est tombé cette nuit. Moi, donc, j'aimerais bien, je sais pas, que sur Le Monde, par exemple, on ait un chouette truc. Alors, hop, je tape. Là, je découvre que Trump, Le Monde est une chanson d'Indochine. Ok. Ok, Le Monde. Pourquoi j'ai. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, Le Monde. Alors, pardon, excusez-moi, je vais me racler la gorge. Là, ça va mieux. Donc, Le Monde, je suis abonné, donc on a accès à cet article ici. Alors, nous, on a, avec nos petits moyens, nous, essayé de mettre du sens sur la photo qu'on vient de voir. Et maintenant, lisons l'article du Monde qui, à mon avis, va encore nous apporter des infos intéressantes. Donc, Trump brièvement arrêté, il a été brièvement interpellé donc à Atlanta, d'où cette photo. L'ancien président joue de la collision entre les calendriers politiques et judiciaires. L'ancien président américain s'est donc présenté jeudi aux autorités en Géorgie, c'était cette nuit pour nous, hein, où il fait l'objet d'une quatrième inculpation. Faisant de la justice une cible pour ses partisans, il continue de plaider la persécution judiciaire, c'est exactement ce que je vous disais. Lisons l'article du Monde, il n'est pas trop long. Ah si. Ok, ouais. Piotr Smola, correspondant à Washington du Monde. Alors, c'est parti. Il existe des millions de photos de Donald Trump, flatteuses, ridicules, solennelles, saugrenues. Cette saisie se distingue entre toutes. Photo historique, je vous le disais. C'est un mug shot, photo d'identité comme prévenu. Le regard de l'ex-président américain est droit, dur, défiant. C'est l'analyse que je vous en proposais à l'instant. La caution pour sa remise en liberté avait été fixée à $200,000. Il est reparti comme il était arrivé, libre et aux abois, estime Le Monde. Alors, Trump est poursuivi avec 18 autres personnes pour avoir fomenté. Quelle est l'accusation pour cette inculpation-là, hein, il y en a trois autres. Pour avoir fomenté une entreprise criminelle, là, je cite la justice américaine, en vue de manipuler le résultat en Géorgie de la dernière présidentielle 2020. À l'instar d'ailleurs des forces similaires dont plusieurs autres états clés, hein, c'est quand le président américain a tenté, l'ancien président américain, en prenant son téléphone, en demandant à des gens de changer, de modifier des résultats d'un présidentiel, hein, en appelant le gouverneur d'un état, en lui disant bah, il manque 20 000 voix là, 18 000 je sais plus, tu me les trouves, il y a un enregistrement audio de cette conversation. Truc de dingue, quoi. Voilà. Donc c'est ça qui est en cause ici. La procureure Fanny Willis, alors Trump ne peut pas la séquer, fait preuve d'ardeur et de fermeté dans ses échanges avec les avocats. Elle envisage un procès dès mars 2024. Voilà, alors il en joue. Hein, il en joue. Quelqu'un me disait, il a fait son retour sur Twitter, sur X. Eh bien oui, je n'étais pas sûr, mais tu as raison. Effectivement, il a diffusé sur X la photo avec le slogan « Ne jamais se rendre ». Voilà. Ah, vous savez qu'il n'avait pas fait son retour sur X, sur Twitter, alors même qu'il avait été unban par Musk, tout simplement parce qu'il préférait continuer à utiliser son propre réseau social Truth Social, peut-être parce que ça lui rapporte des sous. Et là, ça y est, il vient de faire son grand retour sur X, sur Twitter. Donc en diffusant cette photo avec le slogan « Ne jamais se rendre ». Voilà. Il avait même annoncé l'heure de son arrestation formelle. Voilà. Un ton bravache qui résume sa stratégie. Au lieu de mettre derrière lui les accusations mensongères de fraude lors de présidentielle de 2020, Trump creuse ce sillon où la vérité se noie. Voilà. Il dit que les preuves de son innocence sont irréfutables. Il les donne pas. Il dit qu'elles sont irréfutables. Sachez que si on revient un peu en arrière, le président Trump, lors de la dernière élection, a formé plein de pourvois dans plein d'états différents, devant plein de tribunaux, pour prouver que l'élection lui avait été volée. Tous les tribunaux ont répondu à ces pourvois en justice qu'il n'apportait aucune preuve de ça Mais il continue à l'affirmer. Mais sans preuve, sans élément, en tout cas, a constaté la justice américaine. Alors, c'est ce que je vous disais de ces soucis. Mais putain, mais je vous ai pas mis la. Si je, c'est l'article, c'est bon. C'est ce que je vous disais, il utilise ça pour sa campagne. La collision des calendriers politiques et judiciaires est à la fois une bénédiction et une migraine pour Donald Trump. Une bénédiction et une migraine, c'est joliment dit, hein. Elle lui coûte cher financièrement, elle lui coûte des millions. Elle risque de l'empêcher au printemps 2024 de conduire une campagne classique au fil des primaires. Parce que c'est vrai que je vous disais que les militants, les supporters, les fans donnaient énormément d'argent, mais en revanche, dans les grands financiers, hein, les gens qui sont capables de mettre beaucoup, beaucoup d'argent, et aux États-Unis, vous savez que c'est très important. Eh bien, en revanche, là, il y a de plus en plus d'interrogations, et vous avez eu notamment des gens très riches récemment qui ont lâché Trump en estimant que tout ça, c'était pas possible, c'était trop, quoi. Donc, effectivement, peut-être qu'il pourrait manquer d'argent pour la campagne présidentielle. Mais lui a permis de cimenter la base républicaine depuis le début 2023 et de faire la différence et de laisser loin derrière tous ses concurrents à l'investiture républicaine, notamment DeSantis, qui était l'un des favoris. Trump a donc choisi de transformer la chronique judiciaire en un feuilleton à grand spectacle dont il serait un héros tragique, un martyr souffrant pour les siens. Voilà. Même Mike Pence l'a lâché, dit Caradoc. Mike Pence est l'ancien vice-président, si je ne dis pas de bêtises, et qui a témoigné effectivement de ce qu'avait pu faire Trump. Lors de la dernière élection, Mike Pence, Trump lui avait demandé, donc le vice-président, de ne pas reconnaître la victoire de Biden et Pence avait dit mais non, 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 il a gagné quoi. On parle du vice-président républicain de l'époque. Il a ainsi développé, explique Le Monde, une stratégie de la saturation des ondes qui consiste à se nourrir de toutes les rafales judiciaires qui le cinglent, à créer un vacarme, un écho permanent, un monosyllabique, un Trump rebondissant de mur en mur avec la complicité des chaînes d'information, toutes liées par une même dépendance à ce client sans pareil, au-delà de leur positionnement politique ou commercial, menu unique et peu importe qu'il suscite dégoût ou ravissement. Alors ça, c'est une réflexion, une interrogation sur le système médiatique qui est pas inintéressante. Voilà. Donc Trump se dit innocent de tout. Il lui faut donc des coupables, des cibles à désigner à la vindicte des siens, la police fédérale, le FBI qui est instrumentalisé par les démocrates, les magistrats qui sont marxistes et haineux, les élus républicains à la Chambre des représentants se prêtent à cette chasse symbolique. Voilà. Alors quid des chances de Trump de gagner la prochaine élection présidentielle? Parce qu'on n'est pas là que sur l'analyse d'un phénomène. Là, je vous remets la petite photo là. Du mugshot. On n'est pas sur juste un petit plaisir en mode waouh, wow, c'est fou quand même cette photo, ce mec est quand même un drôle de personnage. Non, la question est de savoir s'il peut redevenir le président de la première puissance économique et militaire mondiale. C'est ça la question. Et alors, Le Monde écrit à ce propos, à 15 mois de la présidentielle, ça va arriver vite, hein, l'éventualité d'un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche demeure très hypothétique. La santé incertaine de Joe Biden, le calendrier républicain et d'éventuelles condamnations de l'ancien président pourraient bouleverser la donne. Mais dès aujourd'hui, c'est la libération de la haine, la déshumanisation des serviteurs de l'État, la transformation du débat public en champ d'affrontement avec des alliés, des ennemis qui dessinent un gouffre pour l'Amérique. Il est beau là, l'article de Piotr Smolar là. Si vous avez le temps, c'est dans la dernière édition du Monde sur internet, puisque il faudra attendre le début de l'après-midi pour avoir la dernière édition du Monde version papier à télécharger. Je vous lis un petit peu sur Trump et puis on enchaîne. Darsaliot, merci pour le 13e mois d'abonnement. Tavi Marie, merci beaucoup pour le 3e mois d'abonnement. Merci encore Décadragme et Crête 75. J'espère que je vous ai remercié tout à l'heure. Alors je vous lis un petit peu, puis après on part, parce que la principale actu de ce matin dans vos quotidiens, eh ben en fait c'est pas sur Trump, ça ce sera je pense demain, c'est sur l'affaire Yevgeny Prigogine, voilà. Et là c'est quasiment toutes les unes, hein, c'est la une du Monde, c'est la une de Libération, c'est la une du Figaro, c'est la une de La Croix, c'est la lune de l'humanité. Donc on va beaucoup parler de l'affaire Yevgeny Prigojine, qui est passionnante également. Alors, ah bah du coup j'ai pas fait le sommaire moi. Mais j'ai... en fait je suis parti sur Trump. Pardon. J'ai pas fait le sommaire. On est d'accord que j'ai été emporté par Trump. Bon, en même temps, je ne regrette pas parce qu'il fallait le faire. On est d'accord, j'ai pas fait le sommaire. Bon, alors, le sommaire, ok, très rapidement, le sommaire est passé à l'as. Donc, Yevgeny Prigojine, donc vous verrez, on en parle beaucoup. Ça, je suis très content aussi qu'on en parle ce matin. Ce qui s'est passé au sommet des BRICS. Voilà. Les BRICS, alors le BRICS, c'est une alliance entre quatre pays, BRIC, BRICS, Brésil, Russie, Inde et Chine, voilà, qui s'ouvre à six nouveaux pays. Voilà. Donc ça, c'est très très important, parce qu'il y a une envie là, de ces pays-là de former un nouveau groupe face aux pays du G7 notamment, et de dénoncer la domination du dollar comme monnaie d'échange internationale. Donc il y a un truc passionnant. Donc là, il y a un article dans Les Échos qui nous raconte l'ouverture de la porte à six nouveaux pays, et je vous ai retrouvé un dossier de La Croix de cette semaine qui justement parle de cette alliance contre le dollar. Vous étiez plusieurs à me dire cette semaine, pourquoi tu parles pas des BRICS? J'attendais le bon papier, je crois qu'on l'a trouvé. On parlera aussi de trafic de drogue. Le Parisien a donné la parole à des policiers qui parlent de leur terrible impuissance devant le trafic de drogue en France. Trois jours après la mort par balle d'un enfant de 10 ans, mais au même endroit, un jeune homme de 18 ans a été abattu. Ça s'est passé dans le quartier Pissevin à Nîmes. Et les policiers interrogés par le Parisien se disent submergés. Ils n'y arrivent pas par cette criminalité liée au narco-banditisme. Donc là, on a un vrai sujet aussi. Dans Le Parisien encore, l'Europe fait le ménage sur le net, parce que c'est aujourd'hui, vendredi, que le Digital Service Act, le DSA, donc européen, renforce les contraintes pour les grandes plateformes, les Amazon, les X, les Facebook, mais aussi App Store, mais aussi plein de choses comme ça. Donc renforce les contraintes pour les plateformes, prévoit des sanctions en cas de non-respect des règles. Voilà. C'est quand la politique répond à l'économique, c'est plutôt intéressant. Et puis alors moi, c'est une histoire qui me fascine depuis toujours. Hein, vous connaissez sûrement cette histoire de cette coureuse, de cette américaine qui s'est inscrite en 1967 au marathon de Boston. À l'époque, le marathon de Boston était interdit aux femmes. 67, c'est pas si vieux. Interdit aux femmes, pourquoi? Parce que c'était pour les protéger. Hein, les messieurs pensaient que, en fait, le marathon était un effort qui était inaccessible pour les femmes, qu'elles allaient se faire mal, qu'elles allaient même peut-être mourir, quoi. Et donc les femmes n'avaient pas le droit de s'inscrire. Donc elle s'est inscrite en cachette, Catherine Switzer. Il y a une image célèbre en fait où on voit un homme essayer de la sortir du marathon, de monsieur derrière là en costume, qui en fait est l'organisateur du marathon de Boston. Alors c'est vraiment une photo mythique. Et alors Libération revient sur cette histoire qui est une histoire que connue, hein, mais je trouve la raconte très très bien, et surtout nous raconte, et ça je ne savais pas, comment, parce que souvent on s'arrête à cette photo, bon sachez qu'elle a fini le marathon de Boston, puis elle en a fait plein d'autres après, et puis surtout les femmes ont pu courir des marathons. Et alors ce que raconte l'histoire, c'est qu'en fait les deux là, la coureuse et l'organisateur, ils sont devenus amis après. Parce qu'elle a expliqué que elle n'en voulait pas à ce monsieur qui était le produit d'une époque, hein, qui était déjà âgé, on le voit, regardez, au moment de la photo. Et elle dit, mais ce gars, c'était le produit d'une époque, en fait. Voilà. Et en fait, il ne faisait qu'appliquer l'espèce de norme sociale qui était intégrée à l'époque. Et d'ailleurs, dès que les femmes ont été autorisées à courir les marathons, ce même monsieur là qu'on voit sur la photo qui est pas son avantage là, eh bien ce même monsieur a tout fait pour que les femmes soient très nombreuses à courir des marathons. Vous voyez, donc en aucune manière rien n'est noir et blanc d'ailleurs. Hein. Il faut rentrer dans les gris pour vraiment comprendre les choses. Et moi je trouve intéressant de voir que sur ces questions qui font naître parfois autant de débats et parfois de violence dans le débat, vous avez ces deux personnes qui sur cette photo-là, semble être opposée partout. D'un côté, une femme qui milite pour reconnaître un droit aux femmes sur le cours du marathon, et de l'autre, un vieux bonhomme qui tente de s'opposer à cette évolution. Et puis finalement, si on s'intéresse un peu plus à l'affaire, on se rend compte que lui a fait son mea culpa, et elle, lui en a jamais voulu. Voilà. Et ça, je trouve ça bien. C'est Libé qui nous raconte cette histoire. Moi, je savais pas qu'il y avait. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils sont devenus potes après. Ça, je le savais pas. Voilà. Voilà. Pas mal, hein, petit sommaire. Merci beaucoup, écrivain. Je lis ton message. J'espère que tout va bien. Merci beaucoup. Merci pour ce 18e mois d'abonnement. Je te lis. Merdic Dick, joli pseudo. Merci pour le 14e mois d'abonnement. Babylonia 51, bravo. 8e mois d'abonnement. Armel Couvert et Armel le sub. 20e mois d'abonnement. Vous êtes formidable. Voilà pour. Alors, il y a Cyril qui vient d'arriver qui dit tu parles pas du mugshot de Trump dans ton sommaire. Tu vas en parler. Mais c'est une blague en fait. Je sais que c'est une blague. Je sais que tu étais là. Voilà. Alors, voilà le sommaire. Et maintenant, on va y aller. Je vous lis un petit peu. J'ai pas couru Boston, non, j'ai couru New York deux fois, mais j'ai pas couru Boston. Et à une époque où je courais un petit peu. Mais beau marathon New York, beau marathon. Est-ce que j'ai un go? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on lit tous ces journaux? Donc pour ceux qui s'intéressent au mugshot de Trump, on vient d'en parler. Voilà, c'est en replay, maintenant direct tout de suite sur Twitch et à partir de cet après-midi gratuitement sur YouTube. C'est... Salut Fanny, merci beaucoup pour ce 19e mois. Non, c'est 20h ce soir. L'hebdo Etienne, c'est 20h. Bobine Boukin, merci pour ton 13e mois. Et merci pour le gentil message. Ouais, toujours la revue de presse sur TikTok, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok. Vous avez la version express de cette revue de presse. Attachez vos ceintures, dit Diesel, alors c'est parti. Alors, demain, en une de vos journaux, il y aura le mugshot de Trump, mais ce matin, en une de vos journaux, c'est l'affaire Yevgeny Prigogine. Merci Akenukata, je lis, merci. Donc, Yevgeny Prigogine, rappel des épisodes précédents, le chef, ancien chef maintenant, puisqu'il est mort, de la milice privée Wagner, qui a péri dans un accident, on va mettre les plus énormes guillemets du monde, puisque tout le monde s'accorde à dire que derrière cet accident, il y a la main du président russe Poutine. On ne saura jamais, puisque l'enquête ne donnera jamais rien, mais personne ne croit à un accident. Les vidéos montrent clairement qu'il y a eu soit un tir de missile ou de deux missiles, voire plus vraisemblablement, les experts sont plutôt sur cette piste, une explosion des explosifs dans l'avion. Pensée pour l'hôtesse de l'air d'ailleurs qui notamment qui était sur ce vol et qui n'était pas liée à tous les membres de Wagner qui se trouvaient dans l'avion parce qu'il n'y avait pas que Prigogine. Alors Le Monde d'abord, l'annonce de la mort de Prigogine, un signal de Poutine aux élites russes. Le chef du groupe Wagner a très probablement péri dans le crash de son avion avec 9 autres personnes mercredi, 2 mois précisément, 2 mois, jour pour jour. C'est un des éléments qui font quand même penser à un petit coup de main du président Poutine. 2 mois, jour pour jour, après s'être mutiné contre le chef de l'État russe. J'ai choisi la date anniversaire. Lisons ce premier papier du Monde. L'annonce de la mort de Prigogine, un signal pour l'élite russe, estime le journal. Mercredi soir, 10 corps ont été retrouvés sur les lieux du drame. Mais les autorités russes s'abstiennent encore à confirmer officiellement le décès de Prigogine. Des procédures d'identification devaient débuter hier, mais au vu de l'état des corps, elles devraient prendre du temps et nécessiter des expertises ADN. Pour autant, la mort d'Yevgeny Prigogine fait peu de doutes, écrit Le Monde. Seuls quelques-uns de ses fidèles combattants ou simples admirateurs refusaient toujours d'admettre la mort de Yevgeny Prigogine. Il y a Nébuleuse qui dit, mais il y a un truc que je comprends pas trop. Depuis la mutinerie, il n'était pas censé vivre en Biélorussie. Oui, tu as raison, on va en reparler. Il est passé par l'Afrique. Ce déni en dit long sur la stature quasi mythique que s'était forgée au cours de ces derniers mois l'ancien gangster, puisque dans sa jeunesse, il a été condamné, il a fait de la prison. Pour nombre de Russes, Prigogine restera le héros de Bakhmout, du nom de la seule victoire d'importance obtenue depuis un an par l'armée russe ou dans sa guerre en Ukraine, ou l'homme qui a osé défier une élite ONI, vilipendant oligarque et ministre à longueur d'interview. Les mêmes, donc les fans, les soutiens de Prigogine, oublient, écrit Le Monde, ou au contraire magnifie le culte de la violence promu par le patron de Wagner. Celui-ci avait pris pour emblème la masse avec laquelle on casse des murs. La masse utilisée par des membres de Wagner pour des exécutions publiques que Yevgeny Prigogine commentait d'un ton badin. Dans les rangs de Wagner, les exécutions publiques, notamment de traîtres, d'anciens soldats, c'était filmé avec une masse. C'est-à-dire que je vous fais pas un dessin, c'est-à-dire que la masse allait frapper le crâne de la personne, quoi. N'allez pas voir les vidéos sur Internet. C'est d'une ultra-violence. Donc ça, c'est un truc que lui trouvait formidable. Son nom était aussi directement associé à des assassinats, dont celui de trois journalistes russes tués en Centrafrique en 2018, alors qu'ils enquêtaient sur les activités du groupe dans ce pays. En réalité, écrit Le Monde, parmi les hypothèses avancées, une seule paraît crédible au vu des éléments disponibles. Qu'est-ce qui a provoqué le crash de cet avion? La catastrophe a été filmée sous différents angles. Ces vidéos permettent d'établir que l'avion s'est disloqué en sol avant de tomber de manière parfaitement droite, disloqué en vol, pardon, avant de tomber de manière parfaitement droite vers le sol. Des témoins évoquent aussi des bruits d'explosion. Les experts se divisent seulement pour savoir si l'appareil a été abattu par le tir d'un missile ou par une bombe placée à bord. Voilà. A priori, certains disent que c'est plus une bombe, en fait. En tout cas, la mort de Yevgeny Prigogine ressemble à une démonstration. L'incident était unanimement interprété dans le monde entier par les chancelleries occidentales, par les médias et aussi par les blogueurs pro-pouvoir, donc en Russie, comme un signal, un avertissement adressé à l'élite russe. Difficile en effet d'oublier les paroles prononcées par Poutine le 24 juin au deuxième jour de la mutinerie, alors que l'armée russe paraissait à l'époque incapable d'arrêter les colonnes de Wagner envoyées vers Moscou, vous vous souvenez de ça, et que planait le doute nouveau et terriblement offensant, même une fois dissipé, d'un renversement du pouvoir. Tous ceux qui ont organisé cette mutinerie et pointé leurs fusils vers leurs frères d'armes ont trahi la Russie et répondront de cela, c'est ce qu'avait dit Poutine à l'époque. Je finis cet article du Monde et après je vous lis et on lira d'autres articles. Donc il aura fallu attendre 2 mois pour la sanction. Ce sursis aura permis au pouvoir russe de démanteler méthodiquement l'empire bâti par l'homme d'affaires, car l'ancien restaurateur de Saint-Pétersbourg, qui avait passé 9 ans dans les prisons soviétiques, s'était lancé dans la restauration, c'est comme ça qu'il a fait sa fortune, avant de gagner des milliards dans des contrats publics, notamment pour la fourniture de repas à l'armée. Il a commencé par vendre des hot dogs et puis est devenu milliardaire. Sous l'égide de diverses sociétés, il contrôlait une galaxie de médias, des consultants politiques actifs en Russie comme à l'étranger, des usines à trolls, ça aussi ça a été démontré, employant des contributeurs rétribués pour inonder Internet de commentaires louant le pouvoir russe et discriminant ses ennemis. Sa dernière audace aurait été de recruter dans les prisons russes des détenus envoyés combattre en Ukraine en échange d'une grâce. Les activités africaines de Wagner, enfin, représentaient sans doute le morceau le plus compliqué à démanteler par le pouvoir russe. C'est dans ce secteur que le savoir-faire et l'expérience des hommes de Prigogine seront les plus difficiles à remplacer, imbriquant l'envoi de mercenaires en Centrafrique, en Soudan, au Mali, on va y revenir, l'exploitation de ressources minières et une activité de communication politique et médiatique. Voilà pour le dossier du Monde, mais on va aussi lire celui de Libération et du Figaro dans un instant. Mais d'abord, je vous lis. Alors, je vous lis. Quelle suite pour Wagner du coup? Très bonne question, Boris. On va en parler dans un instant avec Libération et avec le Figaro. Ça va permettre à Poutine de placer à la tête un nouveau chef plus docile et plus obéissant, la tête de Wagner, dit Riagrim, exactement. Ouais, c'est ce que disent les journaux en tout cas. Alors ceux qui demandent, est-ce qu'on a des vidéos où on voit les corps, est-ce qu'on a surtout des tests ADN qui confirment que c'est Prigogine? Non. Voilà. Et je ne sais même pas si on en aura d'ailleurs un jour, quoi. Alors évidemment, à la marge, vous aurez toujours des gens qui vont penser qu'il y a une autre histoire, qu'il est vivant, qu'il y a un deal avec Poutine, qu'il se cache. Voilà. Donc après, à partir du moment où... il y a une enquête qui a été annoncée par la Russie pour trouver les raisons de l'accident. Ce que vous disent les journaux français ce matin, c'est que on ne connaîtra jamais la vérité. Voilà. Bon, on va lire tout ça. Poutine veut enrôler Wagner dans son armée régulière, il me semble, dit Entropy. En fait, c'était déjà le projet de Poutine il y a 2 mois. Et c'est justement ce qui a provoqué la colère de Yevgeny Prigogine, il y a 2 mois. C'est justement parce que Poutine voulait intégrer Wagner à l'armée russe, en fait. Et donc, Prigogine aurait perdu ce pouvoir. Et en fait, la rébellion d'il y a 2 mois, c'est moins une tentative de coup d'État et de putsch qu'en fait un coup de pression sur Moscou pour que Poutine revienne en arrière sur ce projet, en fait. Voilà. Donc, oui, tu as tout à fait raison. On lit Libé ? Bon, Libé, voilà, elle me joue avec les mots, et même de ça arrive à créer un petit sourire. Un accident est si vite arrivé, titre Libé. Libé qui estime que le maître du Kremlin pourrait paraître renforcé dans son autorité. Il a un petit peu mis les pendules à l'heure, on va dire. Il a envoyé des signaux, notamment à l'opposition et aussi aux gens de son camp qui voudraient le challenger. Mais pour combien de temps ? Donc, l'analyse de Libé, et pas que de Libé, c'est que à court terme, Poutine est renforcé. Mais en fait, ce qu'il vient de faire, à moyen terme, le fragilise. Let's go. Victoire à la Pyrrhus, hein, vous connaissez l'expression, une victoire à la Pyrrhus, c'est une victoire qui nécessite tellement de moyens et implique tellement de pertes, en fait, que c'est une victoire qui sonne quasiment comme une défaite. C'est ce qu'on appelle une victoire à la Pyrrhus. La disparition de Yevgeny Prigogine marque une escalade dans l'échelle des purges. Ceux qui ont fait partie des plus proches ne sont plus épargnés s'il faut. Prigogine était un ultra proche, hein, de Poutine. Le président russe semble assurer ainsi son maintien au pouvoir, mais il risque aussi de nourrir le mécontentement intérieur. Tout ce qu'on sait de la Russie permet sans grand risque de formuler 2 hypothèses. On ne connaîtra jamais le scénario précis de l'événement et Vladimir Poutine, qui lui sait, écrit Libé, s'en accommode parfaitement. Hein, plusieurs s'interrogeaient, vous avez raison de vous interroger, mais alors est-ce qu'on sait, est-ce qu'on est sûr, est-ce qu'il était là, est-ce que c'était lui, est-ce qu'il y a des tests ADN, missiles, explosions, est-ce que ce serait pas un accident après tout et tout. On ne saura jamais, et d'après Libération, ça va très bien à Poutine. Ça va très bien à Poutine. Hein. Poutine va pas faire une déclaration demain à la télévision russe pour dire je l'ai fait péter, hein, je l'ai niqué. Non, il va entretenir le flou, mais ça lui va très très bien que tout le monde pense qu'il est derrière ça. Un petit mot de l'historienne spécialiste de la Russie qui s'appelle Françoise Thom, interrogée par Libération, qui dit, qui rappelle ça, et qui redonne un petit peu le contexte. Au début, Prigogine était utile à Poutine, car il était le molosse qu'il utilisait contre la haute hiérarchie militaire. Ça, c'est une info qui est vraiment importante. Le président Poutine se méfiait de l'importance que risquaient de prendre les militaires avec la guerre. Dans un conflit, c'est un classique, quand il y a une guerre, ben forcément, les généraux, les militaires prennent beaucoup d'importance et viennent parfois mettre en danger le pouvoir des politiques. Donc, Poutine se méfiait de l'importance que risquaient de prendre les militaires avec la guerre en Ukraine, et il a utilisé Yevgeny Prigogine pour les intimider, hein, avec la milice Wagner. Finalement, Yevgeny Prigogine s'est pris au jeu, et il est devenu lui-même une menace pour Poutine, et s'est retourné contre son maître. Le molosse a cassé sa chaîne et s'est retourné contre son maître. Voilà. Et quand un chien se retourne contre son maître, on savait ce qui arrive. Se pose la question, écrit encore Libé ce matin, d'une certaine naïveté du patron de Wagner, dont la grâce et l'exil supposé en Biélorussie faisaient figure d'incompréhensible miracle. Quelqu'un me disait dans le chat tout à l'heure, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il faisait dans le ciel russe ? L'accident. C'est passé entre Moscou et Saint-Pétersbourg alors qu'il devait être en exil en Biélorussie. Oui, exactement. Le deal qui avait été passé entre Poutine et Prigogine, c'était, bon, bah, c'est pas terrible ce que t'as fait. Donc t'es gentil. Maintenant tu vas en Biélorussie et tu n'en bouges plus. Exil. Il y a quelques jours auparavant, là, avant le crash, il avait posté une vidéo, une photo de lui où il était en Afrique avec des militaires, enfin des mercenaires de Wagner, en faisant un appel à recruter de nouveaux membres pour Wagner. Donc déjà il était plus en Biélorussie, il était en Afrique. Et là on voit qu'il était dans le ciel russe. D'après les infos qu'on a, il a jamais cessé ses allers-retours. Avec l'accord ou pas d'ailleurs de Moscou, et on dit qu'il continuait à entretenir des contacts au plus haut de l'État. Donc cet exil en Biélorussie, il n'a pas duré très longtemps. Alors, Libération s'interroge par rapport à ça. Prigojine a-t-il trop forcé sa chance inespérée? On l'a vu dans les semaines suivantes, donc après la rébellion, multiplier les apparitions médiatiques, se montrer en Russie, continue d'y mener ses affaires. Ce lundi, il s'était même affiché les armes à la main quelque part en Afrique, claironnant contribuer à la grandeur de la patrie. Son comportement n'était pas celui de quelqu'un qui est censé se faire oublier, mais d'un homme encore sûr de sa position de force. Au point de commettre le péché d'orgueil de quitter mercredi son refuge africain pour Moscou, peut-être pour prendre part, selon certaines sources, à une réunion au ministère russe de la Défense, qui est quand même énorme. Alors j'adore les analystes, et vous n'avez pas tort, il y a Doggy qui dit, mais il s'est cru intouchable, Rapper si. Il a joué avec le feu. Arnarak écrit, le gars était con comme ses pieds. Donc, peut-être une réunion au ministère russe de la Défense, piège tendu par le Kremlin, qui aurait ensuite profité de la présence dans le même avion de trois piliers de Wagner pour décapiter le leadership d'une milice devenue trop encombrante. Est-ce qu'il y a eu une réunion au ministère russe de la Défense qui était en fait un piège pour faire venir les responsables de Wagner et les shooter dans le ciel? Armel Rose, merci pour le 20e mois. Avec la brutalité glaciale de l'ex-officier du KGB qui n'a jamais cessé d'être, Vladimir Poutine s'offre avec l'élimination de Prigojine une bonne rasade de puissance et rappelle qu'il est avant tout le chef d'un clan mafieux. Alors ça, cette histoire de clan mafieux, elle revient beaucoup dans les analyses des journaux ce matin. Le chef d'un clan mafieux qui érige la fidélité en valeur cardinale et la mort en... Pardon. En unique châtiment pour ceux qui l'oublient. Fin de l'article de Libé. Fort de la révision constitutionnelle, ça c'est fort ça, adoptée au printemps 2021, Poutine a désormais les mains libres pour briguer deux nouveaux mandats de 6 ans, l'an prochain puis en 2030. Pure formalité, estiment certains. Poutine, indétrônable président à vie, point d'interrogation. À court terme, le mélange de répression totale et d'apathie populaire lui offre des garanties. Mais, au même titre que la mutinerie de Prigojine avait mis en lumière ses failles, son élimination pourrait laisser des traces. Avec les assassinats des dirigeants de Wagner, on peut dire que la terreur remonte de plus en plus haut dans l'édifice du pouvoir russe, dit l'historienne Françoise Thom, qu'on a cité tout à l'heure. C'est l'indice d'une crise qui se développe au sein du pouvoir même, d'une décomposition des élites dirigeantes russes. Les araignées commencent à se dévorer dans le bocal. Pas mal. Voici pour l'analyse de Libération. On se penche sur celle du Figaro dans un instant. Je vous lis. Ces hommes ne vont-ils pas vouloir se venger, demande Thom. Peut-être. Mais ils risquent aussi de subir le même sort que le patron, quoi. Oui, j'ai vu la tablette se déconnecter de temps en temps, c'est pas méchant. L'important, c'est qu'elle revienne. Voilà. Tout va bien, tout est sous contrôle. Et à propos des hommes de Wagner, il y a Onebo qui écrit, ce sont des mercenaires, ça ne se venge pas, ça trouve un autre chéquier. Pas faux. Je te lis Oscar Reptile, je comprends ta colère. Oscar Reptile qui dit « J'ai remis en question le traitement peu efficace du sujet, étant donné le manque d'informations tangibles, donc je suis potinophile. » Je comprends, il y a peut-être eu un débat dans le chat. On est dans un pays qui n'est pas un pays démocratique. On est dans la Russie. On est dans un pays où il n'y a pas de liberté de la presse. Hein. Il suffit de voir la répression dont sont victimes les journalistes, notamment qui évoquent la guerre en Ukraine. Donc, on est dans un pays où tu n'auras pas... Tu n'auras pas l'info tangible dont tu parles. Hein. Il va y avoir une enquête. Les enquêteurs, on va leur dire ce qu'il faut qu'ils trouvent. Et il n'y aura jamais d'éléments tangibles. Alors, est-ce que ça va nous empêcher de nous pencher sur la mort de Prigojine, donc on ferait en faisant le jeu du pouvoir russe, parce qu'en fait des éléments tangibles on n'en aura jamais, parce qu'il est plutôt de l'intérêt de Poutine finalement qu'on continue à s'interroger, se poser des questions, voilà. Donc ça ne fait pas de t'interroger, ça ne fait pas de toi un poutinophile, mais on en parle quand même, même en l'absence d'éléments tangibles, on est obligé, bien sûr. En revanche, s'il y a bien quelque chose, et ça, le Figaro le dit, et d'autres journaux ce matin, c'est que, et La Croix, ouais, c'est ça que je cherchais, La Croix et le Figaro, c'est que ce qui vient de se passer là montre bien ce qu'est le régime russe aujourd'hui, le pouvoir russe, et la façon dont Poutine fait de la politique, quoi. Il y a La Croix qui parle du tyran Poutine. Et vous verrez pourquoi La Croix utilise ce mot. D'abord le Figaro. Russie, Ukraine, Afrique, ce que change la mort de Prigojine. Édito. Oh, c'est quoi cette voix-là ? Excusez-moi, je me racle la gorge. Si on est obligé, il y a Karadok qui dit... disons que ça sert à rien de faire des suppositions basées sur aucune preuve. Si on est obligé, parce que il y a aucune preuve, il y aura aucune preuve dans cette histoire. On est dans un régime où il y a pas de transparence. Tu n'auras pas de pouvoir, tu n'auras pas d'infos, tu n'auras pas de preuves. Et donc on est obligé de faire des suppositions. Et quand tout le monde, y compris des proches du pouvoir russe, y compris des proches de Wagner, y compris des responsables ukrainiens, y compris des responsables occidentaux, y compris les services secrets, y compris les diplomates, tout le monde dit et Poutine ne dément pas, bon c'est la main de Poutine, bon bah cette supposition devient une quasi-information, mais on est effectivement, et c'est dommage d'ailleurs, mais on est obligé de se contenter de suppositions, hein. Alors l'édito de Philippe Gély, qu'écrit Philippe Gély, que Prigojine illustre le poutinisme. Elle est très importante cette phrase. Prigojine illustre le poutinisme, autant mort que vivant. Ses activités criminelles profitaient au maître du Kremlin sans l'impliquer personnellement. Sa disparition invite ceux qui se croient forts dans l'orbite du pouvoir à raser les murs. Mais que dit-elle d'un pays où un chef de milice est plus connu que le Premier ministre ? Je ne sais pas si quelqu'un connaît le nom du Premier ministre russe ici, moi non. Et d'un régime qui en est réduit à dévorer ses propres membres. Prigojine illustre le poutinisme autant mort que vivant. Le fondateur de Wagner, incarnation d'un pouvoir criminel qui s'auto-détruit, article de Laure Mandeville dans le Figaro, c'est parti. Yevgeny Prigojine était sans doute l'incarnation la plus fidèle et la plus aboutie du pouvoir poutinien. L'expression la plus dégradée, mais aussi peut-être la plus juste de sa nature criminelle et de son mode de fonctionnement hybride et ténébreux. Il révélait la substantifique moelle de ce qui se cache derrière le théâtre officiel et bureaucratique du Kremlin, les coups de main, la violence, les milliards de pots de vin, les opérations de déstabilisation, les rotomondades brutales, la vulgarité, la déshumanisation des rapports politiques et humains. Le régime politique Poutine, c'est ça. Le fait que cette créature de Poutine ait terminé sa course en flamme ne révèle pas seulement ce qui arrive aux traîtres qui osent s'attaquer au pouvoir du tyran, il montre aussi que le poutinisme a déjà commencé de s'auto-détruire, de manger ses enfants naguère chéris. À quand le suivant ? Et à quand finalement l'auto-destruction du tyran ? Écrit le Figaro. Je vais à la fin de l'article. En filigrane, la méthode d'exécution de son ancienne âme damnée révèle aussi que dans le pouvoir russe, une lutte féroce et autodestructrice a commencé sur fond de désaccord sur la manière de sortir de la guerre. La manière dont Prigojine disparaît est la preuve que la Russie est un État failli, un cas. Ah, ça c'est important, ça. Pour moi, c'est un des passages les plus importants de ce matin. La manière dont Prigogine disparaît, la preuve que la Russie est un État failli, incapable de punir les traîtres par des moyens légaux et utilisant des méthodes de gang pour régler ses comptes. Dans n'importe quel pays normal, un mutin aurait été désarmé et jugé. Mais Poutine, malgré ses assertions sur sa puissance et la majesté de l'État russe, était trop faible pour agir ainsi. Oui, double stream, salut Mika Huken, ça va? Défécateur le sait, mais il est bien un des seuls dans ce chat. Le premier ministre russe s'appelle Mikhail Mishustin, en poste depuis 2020. Mais évidemment, la réalité de son pouvoir, elle est comme la popularité de son nom, c'est-à-dire très réduite. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais je comprends ce que fait Berbette qui dit, c'est intéressant, le parallèle avec Trump qui a essayé de faire une mutinerie, bon, qui a essayé de transformer les résultats de la dernière présidentielle. Il n'a pas marché sur Washington avec des chars et des troupes, il l'a fait autrement, et a été jugé par un État démocratique. Alors que Prigogine, lui, est tué. Oui, c'est vrai que oui, on pourrait rapprocher peut-être les deux situations. Alors, ça c'est Le Figaro, et je vous emmène... avant la croix, lire un article toujours dans Le Figaro sur qu'est-ce qui va se passer en Afrique. Vous savez que Wagner, la fameuse milice russe, est présente dans le conflit ukrainien, mais très présente aussi en Afrique. Alors c'est intéressant parce que au début, on a vu arriver Wagner, donc des mercenaires hein, russes en Afrique. Et la question, c'était est-ce que Moscou est au courant? Est-ce que Moscou valide? Voilà. Quel est le lien entre une société privée? Donc Wagner, et le pouvoir russe. Au vu du comportement du pouvoir russe aujourd'hui, ben on se rend compte que les liens étaient très 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 serrés, et Wagner était donc bien, comme on s'en doutait depuis le début, une façon pour Poutine d'être en Afrique, mais de façon indirecte, et sans avoir à assumer les comportements des mercenaires de Wagner, assez problématiques. L'article va le rappeler, c'est parti. L'armée russe donc pourrait remplacer les miliciens en Afrique. Donc il y avait bien un lien entre le pouvoir et Wagner. La mort de Prigogine pourrait accélérer une redistribution des cartes russes sur le continent africain. Wagner, par exemple, sera-t-elle nationalisée? Le ministère russe de la Défense va-t-il négocier directement avec les clients africains de Wagner? S'interroge un chercheur qui s'appelle Samuel Rameni. Depuis son premier engagement militaire en Afrique, c'était en 2017, Wagner a déployé des mercenaires, vous le savez peut-être, dans 5 pays, République centrafricaine, Libye, Mali, Soudan, Mozambique, tandis que d'autres groupes liés à Prigogine ont fait leur apparition à plusieurs titres, militaires, économiques, politiques, dans plus d'une douzaine de pays africains. À la fois politique et sécuritaire, le modèle Wagner, pour ceux qui l'ignorent en Afrique, repose sur l'envoi de conseillers militaires, l'offre de services de sécurité à bas coût, la protection de zones d'extraction de ressources, or, minerais divers, diamants, bois, etc. Ces mercenaires sont accusés d'avoir commis de graves violations des droits de l'homme, y compris des actes de torture, des exécutions de civils, d'exploiter illégalement des ressources minières et des trafics de produits aurifères. D'autres miliciens ont mené des missions d'observation électorale biaisées au profit des pouvoirs en place, souvent contestées par la rue, et orchestré des campagnes d'influence politique. Wagner, ils sont aussi très forts pour ça, et de désinformation sur les réseaux sociaux. À ceux qui s'interrogent sur l'articulation future entre Wagner et les forces armées russes en Afrique, Poutine a paru donner quelques éléments de réponse lors de son intervention à distance, puisqu'il ne s'est pas rendu sur place, lors du sommet des BRICS en Afrique du Sud jeudi. Poutine qui a déclaré: la Russie entend approfondir ses liens avec les pays africains et rester un partenaire fiable en matière de fourniture énergétique et alimentaire. Les assurances de Poutine suggèrent que le leader russe entend donc profiter de la mort de celui qui l'a trahi pour avancer ses pions en Afrique, la manœuvre aurait en fait commencé avant même la disparition de Prigogine. Le dernier voyage du président, du patron de Wagner, cette image qu'on a vue de Prigogine en Afrique quelques jours, ayant précisément eu pour objectif de contrer l'offensive hostile de Poutine sur le sol africain. Et là, ça devient très éclairant. Parce qu'on s'est demandé ce que Prigogine faisait en Afrique il y a quelques jours, là, pourquoi il avait quitté la Biélorussie pour aller en Afrique, faire cette photo, lancer cet appel à recruter des troupes pour Wagner. Et là, d'après le Figaro, en fait, il était sur place pour contrer les opérations lancées par Poutine pour récupérer la mainmise de Wagner sur certains pays africains. On est dans un James Bond, quoi. Enfin, c'est des histoires surréalistes, quoi. On va dire la croix dans un instant, mais je vous lis d'abord. Libenek, merci beaucoup pour le 7e mois d'abonnement. C'est fou, non? Là, on est... Il y a un gars qui écrit ce scénario pour un film. On lui dit non, reste crédible quand même, quoi. C'est l'actu, quoi. Alors je vois beaucoup d'échanges dans le chat, c'est normal, hein. On lance un débat et puis après ça se poursuit sur des gens qui disent oui, mais alors qu'on n'a pas de preuves tangibles, on a des preuves ADN, ça se trouve c'est juste un accident. Voilà. Alors rappelons juste qu'il y a pas mal d'experts aéronautiques qui sont penchés sur les vidéos et qui disent que ce modèle d'avion là, d'avion privé extrêmement sûr, dans toute l'histoire de cet appareil, il y avait eu un seul accident, c'était une collision en vol entre ce type d'appareil et un gros avion type Boeing, c'était une erreur en fait des contrôleurs aériens de la région. Donc un seul accident avec cet appareil dans l'histoire de cet avion. Bon, là c'est le deuxième, c'est la faute à pas de chance. C'est comme Défécateur officiel l'écrit dans le chat, c'est vrai qu'un avion qui perd son aile 2 mois pile après une tentative de mutinerie, c'est la faute à pas de chance. À un moment, quand les experts en aéronautique qui regardent les images vous disent, écoutez, c'est un avion extrêmement fiable qui a jamais eu de soucis dans le passé, dans l'histoire de cet appareil, et là, il a une chute brutale qui semble correspondre à la perte d'une aile provoquée par une explosion. 2 mois pile, après la mutinerie, non loin de la résidence personnelle de Poutine, certains disent qu'il s'est offert un beau feu d'artifice. Comprenez qu'il y a un espèce de faisceau d'éléments qui emmène vers cette analyse, quoi. Voilà. Dicomaniac, un grand merci. On a un très joli raid de Dicomaniac qui nous rejoint à l'instant. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu tes nouvelles. Comment ça va, Dicomaniac? Voilà. Allez voir la chaîne de Dicomaniac. Elle est ici. Voilà. C'est le beau jeune homme en bas à droite, là. C'est le beau gosse, là. Voilà. Passionné d'échecs, notamment. Voilà. Qui stream quasiment tous les jours. Je sais que tu avais notamment enchaîné une séquence de 2 jours de stream énorme qui avait duré. Vous allez me le rappeler dans le chat, combien de jours d'affilée, c'était fou. Et passionné de questions pour un champion. Et d'ailleurs, il y a Abemania qui me dit que justement, Dicomaniac passe dans Question pour un champion, question pour un super champion, samedi prochain. Pendant combien de temps non-stop, Dicomaniac, il a streamé? Vous pouvez me le rappeler ou pas? Merci en tout cas pour le raid, c'est adorable. Vous qui nous joignez, on est en train de se pencher sur la mort de Yevgeny Prigogine, hein, le chef de la milice Wagner. Voilà. 400 jours, voilà. Arcaor me donne le chiffre de 400 jours de stream non-stop. Allez voir cette chaîne, Dicomaniac. C'est intéressant ce débat, je vous lis, c'est intéressant. Allez, on continue. Avec la croix, les leçons d'une disparition et un édito dont le titre claque, Poutine le tyran. Alors, je ne sais pas s'il y a des supporters de Poutine dans le chat, il y en a de temps en temps. Et alors, ceux-là se demandent pourquoi Jean-Christophe Ploquin de la Croix se permet de qualifier Poutine de tyran. Et bien, on va lire cet édito. Comme beaucoup de dictateurs, Vladimir Poutine préférerait avancer masqué. Pendant la première décennie de son règne, il se présentait en parfait démocrate. Durant la seconde, il a entretenu l'illusion sur sa stature d'homme d'État. L'invasion de l'Ukraine a fait voler en éclats cette image, puisque la Russie a violé les principes d'intégralité territoriale et de respect de la souveraineté nationale qui sont au fondement des relations internationales. La disparition de Yevgeny Prigojine mercredi soir fait tomber un autre pan de cette apparente responsabilité. Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, niaient il y a encore quelques mois toute responsabilité dans les agissements de ces mercenaires. C'était une entreprise privée qui n'avait rien à voir avec l'État russe. Mais depuis juin dernier, lorsque Prigojine a été mis au pas, il assure que Moscou tiendra les engagements pris par Wagner, notamment en Afrique. Dès lors, il devient clair que le Kremlin est impliqué dans les gardes prétoriennes protégeant certains potentats africains, dans les stratégies prédatrices pillant les ressources de plusieurs États, dans les massacres de civils perpétrés en présence de mercenaires et documentés par l'ONU. Voilà pourquoi Jean-Christophe Ploquin utilise ce mot de tyran. L'Humanité consacre également un dossier à la mort de Prigojine et y voit, décidément, quelle que soit la ligne éditoriale des journaux, toujours l'ombre de Poutine. À qui profite le crash, se demande l'Humanité. L'Huma qui rappelle que la disparition des cadres de Wagner intervient 2 mois, jour pour jour, après la rébellion organisée dans la nuit du 23 au 24 juin. Donc, coïncidence pour certains, je vous ai vu dans le chat, et qui s'était poursuivie par une marche sur Moscou. L'Humanité qui rappelle, et c'est très important, merci TechPike pour le Prime, que l'objectif réel de Yevgeny Prigojine à l'époque, c'était pas un coup d'État, c'était pas un putsch. C'était d'exiger de Poutine de ne pas appliquer le décret concernant les volontaires engagés en Ukraine. À partir du 1er juillet, sociétés privées et mercenaires devaient signer un contrat avec l'armée, ce qui a été appliqué. Et Prigojine lui-même avait confirmé que le but de la marche n'était pas de permettre était d'interdire la destruction du groupe Wagner, mais pas de renverser le pouvoir. Et ça, c'est important de le rappeler, parce que moi-même, d'ailleurs, par des raccourcis ces derniers jours, je disais la tentative de coup d'État, de putsch de Prigojine, et en fait, a priori, non, c'était juste un coup de pression sur Poutine pour l'empêcher d'intégrer Wagner à l'armée russe. Alors après, vous voyez que les sujets de tension extrême entre les deux hommes sont énormes. Alors je veux bien aller dans le sens de ceux qui disent que des éléments de preuve formelle manquent pour parler d'un assassinat et non pas d'un accident, mais entre la date, entre la question de la fiabilité de l'appareil, des images de traînées dans le ciel, la façon dont l'avion s'est crashé, et les 1 milliard sujets de tension entre les deux hommes, et puis le comportement passé de Poutine vis-à-vis de ses opposants, disons qu'on se pose des questions. Voilà. Bon, ça c'est, vous voyez, l'Humanité, La Croix, Le Figaro, Libération, Le Monde, il est assez rare. Hein. Il est rare que, à ce point, vous ayez une information qui fait la une des journaux. Hein. Souvent, vous avez des unes très très différentes d'un jour à l'autre. Ça veut dire quoi? Tout simplement que ces journaux estiment que c'est une information essentielle et qui est de nature à changer quelque part la face du monde. Quoi. Voilà. En tout cas, il est sûr que cette mort de Prigojine, avec le recul de l'histoire, dans quelques années, eh bien, nous apparaîtra comme un tournant. Voilà. Alors vers quoi, ça on ne sait pas. Vers dans l'évolution du pouvoir russe. Yes. Allez, je vous lis un petit peu. Et après, on parle des BRICS, des pays, des vachement intéressants ça. Allez, je vous lis. Thé Maker dit bonjour, j'ai une petite question. Il était bien cuisinier avant. Comment est-il passé de cuisinier à chef d'une milice? C'est quoi son parcours? Je te le résume super court. Prigogine, c'est un délinquant. Il trempe dans diverses affaires criminelles. Il passe plusieurs années en prison à l'époque soviétique, tout jeune, hein, notamment pour. Quand t'es Mac, quoi. Enfin, tu vois, quand tu fais travailler des prostituées, voilà, bon, notamment pour ces raisons-là. Il sort de prison, et puis, je te la fais courte, mais en gros, il devient vendeur de hot dog, et puis il ouvre un restaurant, deux restaurants, et puis il commence à bâtir un petit empire dans la restauration. Bon, peut-être avec des méthodes particulières, ça je ne sais pas. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'à l'époque, il rencontre Poutine, bien avant qu'il arrive au poste de responsabilité. Qu'on lui connaît, et ils s'entendent très très bien tous les deux. Et puis à la faveur de cette amitié, Prigogine va à partir de ce petit on va dire cette PME de la restauration, va obtenir des marchés très importants de fournitures, de bouffe, en fait, de plateaux repas, notamment pour l'armée russe et pour les fonctionnaires russes, pour les prisons aussi. Et là, ça va être des contrats qui vont lui rapporter des milliards. Il va devenir milliardaire. Et puis après, il a développé ses activités vers l'influence, voilà, avec des usines, des fermes à trolls, voilà, pour peser sur l'information, sur les élections. Donc un développement dans l'influence et un développement vers la création de cette milice avec d'autres, hein, cette milice Wagner. Voilà. Du hot dog à la ministre, je te la fais très courte. Bon, en gros, voilà son parcours. T'inquiète, Dave McFly, t'as tout en replay. Notamment sur YouTube, t'auras tout en replay. Merci David, c'est gentil. Voilà, bon, en replay, donc vous avez tous nos échanges sur Prigogine et puis aussi sur, parce qu'on a commencé par ça, le mugshot de Trump. On a passé une petite demi-heure là-dessus. C'est une info qui est tombée cette nuit pour nous. Le mugshot, la photo d'identité judiciaire de l'ancien président Poutine, ce qui est une première dans l'histoire du pays. Je voulais vous parler de ça aussi. Les BRICS, très important. Alors les BRICS, c'est une alliance de pays qui est ancienne déjà, hein. On va retrouver la date dans un instant. BRICS, 4 pays. B, Brésil. R, Russie. I, Inde. C, Chine. Les BRICS, alliance de pays, voilà. L'alliance diplomatique, économique, politique, et ils sont réunis à Johannesburg en sommet, et là, eh bien, il y a une évolution qui est assez importante, puisqu'ils ont ouvert la porte pour la première fois à... l'Afrique du Sud. Excusez-moi, il en manquait un. À 6 nouveaux pays. Les 6 nouveaux pays étant l'Arabie Saoudite, l'Argentine, donc l'Arabie Saoudite et son pétrole, quoi. L'Argentine, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie et l'Iran, qui doivent a priori rejoindre le groupe formé par l'Afrique du Sud, que j'avais oublié, autant pour moi, la Russie, le Brésil, la Chine et l'Inde. Je devrais le savoir d'autant plus que le sommet avait lieu à Johannesburg, en Afrique du Sud. Décision historique qui rebat les cartes des alliances mondiales. Vous avez une page dans Les Échos et vous avez un dossier dans La Croix de cette semaine qu'on va lire juste après, qui est très intéressant. Et donc c'est vraiment une évolution qui est importante. Je zoome un petit peu dans l'article. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre donc pour les BRICS. Le président sud-africain a annoncé à la presse hier l'admission de 6 candidats qui viendront à partir du 1er janvier prochain, plus que doubler le nombre de membres. Un consensus a donc été trouvé pour accueillir l'Argentine, l'Égypte, l'Iran, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis au sein de ce groupe. Poutine, décidément, Poutine s'est réjoui en défendant que l'ordre mondial était menacé par le libéralisme radical, poussé par certains pays qui veulent éliminer les valeurs traditionnelles qui nous sont chères à tous. Le président russe qui est intervenu par vidéo, hein, puisqu'il ne s'est pas déplacé au sommet en Afrique du Sud. Est-ce que vous savez pourquoi le président russe ne s'est pas déplacé Ce mec était important. Qui est intervenu en vidéo. Non. Tout simplement parce qu'en fait, il y a un mandat d'arrêt. Exactement, certains le savent, émis à son encontre par la Cour pénale internationale dans le cadre de la guerre en Ukraine. Et en fait, il avait tout simplement peur d'être arrêté, d'être interpellé. C'est pour ça qu'il ne se déplace pas, qu'il ne quitte pas la Russie. Cette annonce va transformer la dynamique au sein du groupe qui représentait déjà plus de 40% de la population mondiale et un quart du PIB mondial. Une victoire pour l'avènement d'un monde multipolaire, selon le Premier ministre indien Narendra Modi. L'ajout de géants des hydrocarbures comme l'Arabie Saoudite, l'Iran et les Émirats Unis pourrait permettre d'accélérer le projet de dédollarisation, ça c'est très important, dédollarisation des BRICS. Et ça, on va en parler grâce à la Croix, parce que cette semaine, donc j'ai pas pu streamer mardi matin, mais j'avais quand même lu les journaux pour vous. J'avais mis plein de coups de stabilo et j'avais trouvé un très beau dossier dans la Croix sur les BRICS, une alliance contre le dollar, qui nous expliquait ça très très bien. Dès ce mardi, disait la Croix, le sommet vient de se terminer, le sommet Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud va tenter de rebattre les cartes de l'ordre économique mondial. Lisons l'édito de Monsieur Ploquin, Jean-Christophe Ploquin, pour comprendre tout ça. Et après j'irai me faire un petit café. Et on fera l'actualité en France. Merci la Diva Créole pour le... Oh là là, 2 ans, ouais. 2 ans d'abonnement. On est au max. On est au max. Les grandes puissances émergentes cherchent donc à créer de nouveaux équilibres dans les relations internationales. Le sommet des BRICS, cette alliance au départ informel du quatuor Chine, Russie, Inde, Brésil, c'est pour ça que j'ai pas mis l'Afrique du Sud au début, c'est qu'à l'origine, quand j'étais à l'école, moi, il n'y avait que ces quatre-là. Et puis plus tard, l'Afrique du Sud est arrivée. Cette alliance attire un nombre croissant de candidats. À sa manière, elle donne consistance à l'idée récente de Sud global, construite par opposition avec le Nord, pôle développé, longtemps dominateur, qu'il faudrait détrôner. Les pays qui constituent les BRICS sont toutefois assez dissemblables. Un pays sort du lot, la Chine, qui s'est imposée comme la deuxième puissance économique mondiale et qui rivalise avec les États-Unis en matière d'influence. Pékin nourrit le projet de créer une alternative au dollar, la principale monnaie des échanges internationaux. Est-ce que le sommet des BRICS va donner des résultats concrets? Il survient en tout cas à un moment où les deux principaux membres fondateurs rencontrent de grosses difficultés. La Chine enregistre un fort ralentissement de sa croissance, on en a parlé ici, un début de déflation, une crise immobilière majeure, une crise économique en Chine là, qui est vraiment radicale. Et puis la Russie, ben n'en parlons pas, piégée par la guerre qu'elle a déclenchée en Ukraine, qui a d'ailleurs empêché Poutine de se rendre à Johannesburg. La concrétisation du Sud global n'est sans doute pas pour demain. Ce genre de mouvement, en fait, je vous résume le dossier de la Croix, là, BRICS, un sommet contre le dollar. Ce genre de mouvement, aujourd'hui, la monnaie dominante dans le monde, la monnaie des échanges internationaux, et qui donne un énorme pouvoir économique, diplomatique et politique aux États-Unis, c'est le dollar. Il y a des pays qui rêvent de remplacer le dollar par d'autres monnaies. Ce que dit la Croix, c'est que peut-être que ça arrivera un jour, mais que ce genre de mouvements sont extrêmement lents. Et, en prenant un exemple intéressant d'ailleurs, c'est le temps que le dollar a mis pour détrôner la livre sterling britannique. En fait. Et ça a pris beaucoup de temps. Donc est-ce qu'un jour une autre monnaie, c'est quoi la monnaie chinoise, c'est le yuan, c'est ça, le yuan, je dis pas de bêtises, le yuan, hein, le yen c'est le Japon, le yuan c'est en Chine, c'est ça, je dis pas de bêtises, est-ce que la monnaie chinoise va un jour, c'est ça le yuan, détrôner le dollar? Si ça arrive, eh ben ça mettra beaucoup de temps. Enfin, je vous résume le dossier de la Croix, mais qui est vachement bien fait. Alors justement, la Croix éclaire cette question. Pourquoi vouloir refonder le système international fondé sur le dollar? D'abord pour des raisons d'indépendance économique. Le dollar étant la principale monnaie de réserve des banques centrales du monde entier, la politique monétaire conduite par la réserve fédérale américaine a des conséquences sur le monde entier. Ensuite, pour des raisons géopolitiques, car les États-Unis utilisent de plus en plus le poids écrasant du dollar comme d'une arme, dit la Croix. Il est devenu un outil pour un grand nombre de sanctions pour les pays tiers. Le droit américain permet en effet de sanctionner une entreprise ayant effectué... Le droit américain permet de sanctionner une entreprise qui a effectué une transaction en dollars, même si elle a été effectuée à l'autre bout de la planète, quoi. Voilà, ça c'est le droit américain. Par exemple, le groupe français BNP Paribas, la banque BNP Paribas, en 2014, s'est pris une amende record pour avoir effectué des paiements en dollars vers Cuba, vers l'Iran, vers le Soudan, entre 2002 et 2009, sous des sanctions américaines. Voilà. Alors, est-ce que le yuan peut prendre la place du dollar ? Alors ça, c'est l'avis de Lacroix. Pas vraiment. Un changement de régime monétaire, ça dure très longtemps, explique un économiste. C'est l'exemple que je vous disais. Le remplacement de la livre sterling par le dollar comme monnaie hégémonique s'est étalé sur toute la moitié du 19e siècle. Surtout, le yuan aura du mal à devenir un concurrent du dollar tant que la Chine se fait un devoir de conserver le contrôle sur sa monnaie, empêchant une libre circulation du yuan en dehors du pays, méthode efficace pour maîtriser sa politique monétaire, mais un handicap pour en faire la devise de référence internationale. Lacroix semble nous dire que le dollar a encore de belles années devant lui. Tiens, Olistou nous parle de cette particularité du droit américain qui fait qu'à partir du moment où un paiement est fait en dollars, du coup la justice américaine est compétente, hein, je résume. Olistou dit, moi je travaille dans le milieu bancaire et en effet, on n'accepte plus des paiements en dollars pour être certain de ne pas tomber sous une sanction des États-Unis. Ce qui me fait penser qu'en tant que streamer, sur Twitch, je suis payé en dollars. Voilà. Ce qui me rappelle une rime de MC Solar d'ailleurs. Aloha, aloha. Je préfère dollar comme on m'appelle Solar, excusez-moi, et qui sont ensuite transformés en euros sur mon compte, mais du coup je me rends compte que je peux être sanctionné par les États-Unis. Merci Paolo les ouf pour le deuxième mois d'abonnement et donc pour les dollars. Ils sont très forts, hein. Alors je suis en fait, c'est un truc qui manque dans l'article. Mr. Fred, MDR Fred, pardon, et d'autres disent, et l'euro, alors on n'en parle pas, et l'euro d'un point de vue international, ben moi je trouve que c'est ce qui manque dans cet article. Ben, où en est l'euro en tant que monnaie internationale aujourd'hui? On nous parle du dollar, on parle du yuan. J'avoue que j'aurais bien voulu avoir un petit éclairage là-dessus. Voilà, Clamakin a la ref du verre de MC Solar que j'évoquais. J'achète ton rap en dinar, mais je veux des dollars car on m'appelle Solar. C'est ça. Exactement. Tu gagnes bien ta vie en dollars ? Bof. Bof. Mais ça, bof. Bon, un petit café, ça va long, hein, parce que là, le réveil a sonné à 5h du matin et je n'en ai pas bu assez. Peut-être me manger un petit crocodile Haribo aussi. Et après, on parle, alors ça, c'est pas très très gay, mais de la lutte contre le trafic de drogue en France. Il y a eu deux victimes en quelques jours, notamment un petit garçon de 10 ans hein, qui n'avait rien à voir avec ce trafic de drogue qui a trouvé la mort d'une balle à Nîmes dans le quartier Pissevin. Il y a une deuxième personne, un jeune homme de 18 ans qui vient d'être abattu également. Donc on lira ça dans le Parisien et l'impuissance des forces de l'ordre. On parlera de l'Europe qui fait le ménage sur le net avec l'entrée en vigueur du Digital Service Act aujourd'hui en Europe. Voilà. Et puis d'une belle histoire de la femme, la première femme à avoir couru le marathon de Boston. J'adore cette histoire. Je me recale sur le Parisien. Je vais me chercher un petit café. Varcou62, merci pour les dollars, merci pour le Prime. Je vous mets une petite musique. Écoutez, je vais vous remettre celle de tout à l'heure parce que je l'aimais bien. Mother. Je vous la remets. Je reviens dans 3 minutes après m'être recaféiné. Petite musique pour les abonnés. Petite pub pour les autres. Je vous dis à tout de suite, bande de belles personnes. Alors, il y a God Given qui dit on l'a entendu, réentendu cette histoire. Non. Tu verras. Il y a un truc que tu sais pas. C'est pour ça que je vous le lis, l'histoire de la marathonienne. Ha ha ha. À suivre. À tout de suite. Keep on counting my time. C'est bien celle-là. Vous avez vu comment j'étais rapide? Ah, super rapide. On la refait. On la mettra pour le raid tout à l'heure, cette musique. J'ai pas fait de café. Voilà, parce que j'essaie de diminuer ma consommation de café. Donc, je me suis juste fait un petit verre d'eau. Voilà, voilà. Regarde cette qualité de vie. Incroyable. Ma mère, merci. Pas la mienne, que je n'ai plus, hélas. Mais à qui je pense tous les jours. Ma mère vient de lâcher un 21e mois d'abonnement pour le début de la nouvelle saison. Merci beaucoup. On me dit qu'il y a Sunday qui stream en même temps ce matin. Eh bien, justement, hop, je vous remets l'affiche de l'Hebdo Étienne, du retour de l'Hebdo Étienne. Donc, saison 2, c'est ce soir 20h. Soyez là. On va se régaler. Hein. 20h, 23h ce soir. L'Hebdo Étienne avec le retour de Valérie Damido, avec la streameuse Sunday qui est en live actuellement d'ailleurs. Sunday qui vient pour la première fois. On va se régaler. Voilà. Et Astrid de Villene qui revient, la journaliste du Huffington Post, et Mimi Hegel, la journaliste et youtubeuse, qui revient aussi. Voilà. On va se régaler, on va parler de Prigogine. Voilà, on va reparler bien sûr du Yevgeny Prigogine ce soir. On va parler de la dette en France, du budget 2024 qui arrive avec beaucoup d'économies, réduction notamment des dépenses de santé. Ça met très en colère Valérie Damido, elle nous en parlera ce soir. Et puis troisième thème, il y avait un dossier dont je vous ai parlé lundi sur la viande en France, le fait que la consommation de viande ne baissait pas, alors que on sait pourtant qu'il va falloir a priori baisser sa consommation de viande. Pour lutter contre les émissions de CO2, voilà, avec le transport, c'est à titre individuel un des trucs où on est le plus efficace. Donc je demanderai un petit peu à nos invités où elles en sont par rapport à ça. Et puis des cartes blanches, Papy Sam va sans doute parler de Trump, Damido va nous parler du wokisme, Sunday et Mimi, petite carte blanche sur la précarité des créateurs de contenu sur internet. Et puis Astrid de Villene adore la poésie et a une carte blanche sur la poésie. Voilà, donc ça c'est ce soir 20h, j'espère que vous serez nombreux pour le retour de l'Hebdo Étienne. Et puis ding 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 ding, dimanche 20h, là, c'est parti, la vraie grande et seule et unique première émission de la saison 1 de Ça me plaît, tous les dimanches soirs, pour oublier le stress, l'inquiétude du dimanche soir avant le retour du travail le lundi, tous les dimanches soirs 20h pour terminer le week-end de façon bien tranquille, bien chill. On s'immerge dans un jeu vidéo, voilà, ce qui va permettre de rattraper mon retard en la matière. Et on commence avec l'ami Étoile. Comment commencer une nouvelle émission autrement qu'avec Rayou, qui est celui qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a fait découvrir cet univers et cet outil qu'est Twitch. Donc Rayou pour Super Smash Bros, évidemment, je pense qu'on va se régaler. Et après, il y aura 31 émissions en tout et 31 jeux que tous les dimanches soirs on va évoquer. Voilà. L'idée, c'est aussi d'avoir un petit moment tranquille le dimanche, un peu apaisé pour mettre ça en fond, tranquillou, en écoutant nos bêtises et moi qui n'en reviens pas en disant « Waouh, mais c'est fou, oh, les jeux vidéo, mais c'est... Hey, comment on appelle ça ? Une manette ? Oh, c'est incroyable !» C'était drôle avec Kayane et avec Ken Bogard avec qui on a fait deux émissions test en juin. J'étais en mode « Mais tout me... » Et ça, comment tu... Une console ? Oh, incroyable, tout était. Il y aura du rétro gaming, il y aura tout, bien sûr. Ça va être génial. En tout cas, je suis content que ce soit avec Rayou pour commencer. Voilà. Et il y aura du StarCraft 2, il y aura tout. Elle m'a fracassé, Kayane, c'était épique. Mais bien sûr, mais tous mes invités vont me fracasser. Bien sûr. Voilà. Quand on a mon âge, évidemment qu'on va faire du rétro gaming, bien sûr. J'ai joué. À la fin des années 80, j'ai joué, j'étais un gamer, moi. Mais on va dire de 1984 à 1988, j'étais un gamer de l'époque, quoi, avec ma console Atari, et mon Commodore 64, voilà, avec des pixels gros comme le poing. J'ai joué à tout ça. Puis après, j'ai arrêté parce que j'ai fait d'autres choses. Et donc, je vais redevenir un gamer, ça va être énorme. Alex Badgon, merci pour le 17e mois d'abonnement, et donc merci à ma mère pour le 21e mois d'abonnement, ce qui est énorme. Alors là, je passe à un sujet qui est dramatique, puisque il est question notamment de mort de 13 jeunes gens, et notamment d'un enfant, d'un garçon de 10 ans, sur fond de trafic de drogue. C'est la une du Parisien. Trafic de drogue, la terrible impuissance. Impuissance de qui ? Des forces de l'ordre. 3 jours après la mort par balle, déjà, d'un enfant de 10 ans, un jeune homme de 18 ans a été abattu dans le quartier, le même quartier, de Pissevin. donc c'est à Nîmes, et les policiers interrogés par Le Parisien se disent submergés par cette criminalité liée au narco-banditisme qui gangrène de très nombreuses villes, et les policiers disent on n'y peut rien, on ne peut rien faire, on n'y arrive pas. À Pisevin, on a peur toute l'année, c'est une habitante qui le dit aux Parisiens. Le ministre de l'Intérieur doit se déplacer aujourd'hui dans le quartier après ces deux fusillades mortelles. Les habitants des cités gangrenées par la drogue clament leur désespoir, ne croient plus aux annonces, hein, vous allez le voir. Au lendemain d'un nouveau règlement de compte qui a coûté la vie à un jeune homme de 18 ans, vraisemblablement une petite main du trafic, et trois jours après le décès de Fayed, 10 ans, victime collatérale d'une bataille de territoire menée à l'arme de guerre avec le quartier rival de Val-de-Gour, les forces de l'ordre quadrillent le périmètre. Hein. Le petit Fayette, 10 ans, il était dans une voiture avec son oncle. Hein. Il passait par là. Il y a eu une fusillade et l'enfant est mort. Donc les forces de l'ordre quadrillent aujourd'hui le périmètre. Il y a une visite du ministre de l'Intérieur. Mais il y a une mère de famille qui dit aux Parisiens, vous verrez, demain ils seront partis. Elle s'interrompt à peine alors que s'engage une course-poursuite au milieu de l'allée, dealers, policiers, slalomant entre les habitants, en train de faire leurs courses dans les quelques commerces qui n'ont pas encore déserté. C'est notre lot quotidien, dit cette habitante. Depuis son appartement qui donne sur la galerie, rien ne lui échappe, ni les cris des guetteurs, ni les tirs de mortier, ni les tirs de Kalachnikov, hein, qui ont tué en deux fois en une poignée de jours, juste sous ses fenêtres. Quand le petit Fayet est mort, j'ai retrouvé ma fille sous son lit en crise de panique, dit cette maman. J'étais traumatisée, dit sa fille, depuis qu'une fois, quand j'étais petite, une fusillade a éclaté alors qu'on passait en voiture près de la galerie. C'est ce que dit Nilia, 17 ans, qui récite chacun des cris distinctifs des choufs qui réveillent parfois les habitants en pleine nuit. J'ai appris, dit la maman, à mes enfants à se cacher sans poser de questions si je leur ordonne. C'est ça, notre vie du quotidien. Son rêve, quitter le quartier, ses trafics, ses guerres qui gangrènent le quotidien de ses 13 000 habitants, s'y ajoute un habitat fortement dégradé, un sentiment de déclassement palpable. Gérald Darmanin, qui a présidé hier une réunion de sécurité exceptionnelle place Beauvau et a annoncé de nouveaux renforts, se déplace donc ce matin, à l'heure où on parle sans doute là, et a annoncé de nouveaux renforts. Il va pouvoir se montrer devant les caméras, persifle-t-on chez les habitants. Personne ne semble non plus attendre grand-chose pourtant d'un vaste programme de rénovation urbaine censé transformer le quartier grâce à une enveloppe conséquente de 600 millions d'euros. Pour beaucoup, cette rénovation qui doit s'étaler sur 25 ans est trop tardive. On a laissé la situation pourrir bien avant, ça a profité au trafic qui explose depuis 5 ans. Il n'y a plus de commissariat, il n'y a pas d'activité pour les jeunes, il n'y a pas de stade de foot en accès libre. Quand j'étais petit, on nous traînait de force dans des centres aérés, se remémore un jeune père de famille. À la création, dans les années 60, ce quartier était pourtant ultra moderne, mais la fin de la mixité sociale, ça c'est très important, et la paupérisation ont abouti à la situation actuelle, analyse le président d'une association de quartier. Un jeune sur deux est au chômage. 70% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Le deal de drogue s'affiche sans complexe. Le constat est amer, le défi immense. Hein. 50 euros de l'heure pour un simple guetteur, alors qu'il n'y a pas de travail pour les jeunes dans ce quartier. L'argent de la drogue est devenu plus important que toutes les subventions réunies, explique ce directeur d'une association. La parole aux policiers maintenant. D'ailleurs, c'est pas... Enfin, c'est assez incroyable. Nîmes n'est malheureusement pas une exception et Marseille reste. Et si Marseille reste l'épicentre français des règlements de compte, le narco-banditisme a depuis plusieurs années essaimé ses méthodes partout, à grande rafale d'armes de guerre, de Cavaillon à Toulouse, en passant par Besançon. Ah, c'est vrai qu'à Besançon, il y a des incidents régulièrement, ouais. Notamment dans un quartier qui s'appelle Planoise. À Grenoble, à Nantes, à Avignon, et cette liste pourrait s'allonger des dizaines d'autres villes françaises, sans compter la région parisienne, bien sûr. Le trafic de drogue s'est morcelé, les équipes de grossistes de cannabis se sont multipliées, confirme cet ancien policier des stupes. N'importe quel petit caïd aujourd'hui peut aller chercher du shit en Espagne et rapporter 200 ou 300 kilos. Plus d'acteurs, plus de concurrence. On a noté un rajeunissement des opérateurs du trafic sur le terrain, poursuit un autre policier. On les appelle les météorites, hein, des mecs qui montent d'un coup très jeunes, très violents, complètement déstructuré. En fait, il n'y a plus d'équilibre, plus personne ne maîtrise rien. Avant, les équipes étaient assez identifiées, hiérarchisées, maintenant c'est fini. Les trafiquants sont prêts à tuer n'importe qui pour garder un point de deal ou en récupérer un à l'équipe d'en face. Les mecs se trahissent, on veut, se volent, il n'y a plus que le gain qui compte. La parole encore aux policiers. En fait, il y a trop de tout, trop de consommateurs, trop de réseaux, trop d'intérêts. La réalité, c'est qu'on est submergé par cette criminalité. Submergé, dit un commissaire. Leurs territoires n'obéissent pas aux mêmes règles. Leur faire la guerre, c'est très bien. Mais il y a beaucoup de soldats en face. Et beaucoup d'argent aussi. Et la police ne pèse pas lourd face à ça. Voilà ce que disent policiers. Je vais vous lire un édito après, mais d'abord, je vous lis. C'est fou, hein ? C'est fou, non ? Excusez-moi, j'ai cru à mon amoureuse. Hop ! Alors, y a, je te lis, Mecca Varon, qui est un habitué, il dit « Je fume. » Et j'arrêterai pas de fumer parce que quelqu'un me dit que c'est pas bien. Pour la plupart, vous buvez tous. En termes d'impact sur la santé, c'est 1000 fois pire. Personne ne vous casse les couilles. Alors, ne cassez pas les couilles des consommateurs. J'entends ce que tu dis. L'alcool est évidemment une forme de drogue aussi. Drogue légale, autorisée face à une drogue qui ne l'est pas. En tout cas, en France. Après, il y a un aspect dans l'édito qui arrive là, qui invoque justement une certaine responsabilité due des consommateurs. Tu seras d'accord ou pas, mais je vais te le lire dans un instant. J'ai le même souci dans mon quartier, me dit Ogi. En 10 ans, il est devenu vide, plus aucune activité. Plus de mairie, plus de poste de police, mais plein de nouveaux bâtiments plus modernes. Elvalu 33, je suis gardien de la paix en région parisienne. On arrête des dealers armés tous les jours, mais les sanctions judiciaires ne sont pas dissuasives. On les retrouve dans la rue quelques jours plus tard. Mister 8, merci pour le 4e mois d'abonnement. Merci à toi. Merci du soutien. Quand tu ramasses un salaire à la journée, me dit Lécha 7, pour de très bons charbonneurs et même 10 cas par jour pour des têtes, la question ne se pose plus dans les têtes. Alors, évidemment, il y a le débat sur la dépénalisation, sur la légalisation, qui sont deux choses différentes. Il y a une expérimentation actuellement en Allemagne, hein, qui n'est pas une surprise. Hein, là, j'ai vu il y a quelques jours des tweets de certains sites d'info, vous savez, qui donnent des infos un peu brutes, comme ça, qui disent « Waouh, c'est énorme dépénalisation du cannabis en Allemagne, c'est fou !» Bon, c'est dans le programme de la coalition au pouvoir depuis le début, en fait. Donc, ça fait des années qu'on sait que ça va être mis en place. Ça avait pris du retard d'ailleurs, donc c'est pas du tout une surprise. La surprise par contre, c'est que c'est beaucoup moins global que prévu, puisque les partis au pouvoir en Allemagne, libéraux, sociodémocrates et écologistes, avaient promis de dépénaliser le cannabis, hein, c'était dans le programme de gouvernement de la coalition, et finalement ils ont essayé de faire une expérimentation dans plusieurs régions, dans plusieurs Landers, si je ne dis pas de bêtises. Et Tourtemiel y fait référence. Concernant la légalisation du cannabis, je suis persuadé que ce que fait l'Allemagne va nécessairement faire que la France va revoir sa copie dans les 2-3 années. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un débat très intéressant. Aujourd'hui, quand vous écoutez les responsables politiques nationaux, en tout cas, au niveau local, c'est différent. En région parisienne, par exemple, vous avez eu plusieurs dizaines de maires à un moment qui ont signé un appel il n'y a pas si longtemps à dépénaliser le cannabis, parce qu'au quotidien ils voient bien au niveau local ce que ça fait. Au niveau national, vous n'avez pas beaucoup de responsables politiques de premier plan qui appellent à la dépénalisation. Et quand vous voyez le temps que prend ce genre de réforme, quand vous voyez aujourd'hui qu'il y a très très peu de responsables politiques de premier plan qui appellent à ça, moi je pense que ce truc, si un jour c'est mis en place en France, c'est pas pour tout de suite, c'est dans très longtemps. Dans très longtemps. Alors, Jésus 95. À ce propos, il nous dit, tenant une boutique de CBD, je pense que la légalisation peut aider à diminuer ce fléau. Les personnes qui achetaient dans les quartiers se retrouveront à acheter dans les boutiques spécialisées, pouvant contrôler la qualité des produits, la consommation, faire de la prévention et ainsi diminuer les problèmes que cause le trafic dans la rue. Bon, ça, c'est un débat qu'on a à chaque fois. Et il est important d'ailleurs. Mais autant une époque Moi, je me disais, tiens, pourquoi pas en France, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être mis en place? Quand tu vois les propos là-dessus, c'est mon épouse qui me tient au courant de la réception des derniers éléments de décor pour le studio, pour l'Hebdo Étienne, et ça me plaît. Je me dis que c'est pas pour tout de suite. Hein. Non, France Info, c'est terminé. Après 7 ans de réveil à 2 h du matin, j'ai décidé, un peu à mon corps défendant, d'arrêter la matinale de France Info parce que physiquement, j'en pouvais plus, en fait, tout simplement. J'adore France Info, j'adore cette équipe de la matinale, j'ai adoré faire ça. Mais voilà, je suis. J'ai aucun souci à le dire. Hein. Je suis épuisé, en fait. Physiquement, c'est cette année mon. De sommeil très réduit. À un moment, j'ai cru que je tenais vraiment bien. Et puis, en fait, là, j'ai senti que j'avais de plus en plus de petits problèmes de santé et d'une vraie fatigue. Et donc, j'ai préféré m'arrêter avant que d'avoir le petit problème de santé qui allait m'arrêter pour passer aussi un peu plus de temps avec ma famille, puisque ma famille ne me voyait plus beaucoup, et prendre une partie de ce temps investi sur France Info et l'investir sur Twitch. Voilà. Donc, plus de matinale de France Info, mais plus de stream. Matcha AA, merci pour le 8e mois d'abonnement, c'est adorable. Alors je vais vous lire un édito maintenant là-dessus, là. Par contre, j'ai toujours question pour un champion, bien sûr. Et ça, je ne l'arrêterai pour rien au monde. Enfin, rien au monde. Moi, je n'arrêterai pas. Après, France Télévisions a toujours, bien sûr, évidemment, le droit de me reprendre ce job. Un poste en télé n'appartient à personne. On me l'a donné. On peut me le reprendre quand on veut. Ça, j'ai aucun souci avec ça. En même temps, bon, question va plutôt bien, donc c'est une belle histoire. Laurie Marin, merci pour les beats. Édito là-dessus, sur la drogue, le trafic de drogue en France. Monde parallèle, édito d'Olivier Auguste. Un enfant de 10 ans, dont la famille n'a rien à voir, ni de près ni de loin avec le trafic de drogue, est tué par balle. Rien que ça, quoi. D'un moment, on ne peut pas laisser s'installer, demeurer, se développer une situation criminelle, économico-criminelle, qui mène à la mort en France d'un enfant de 10 ans, en fait. On ne peut pas. Donc ce sujet, il faut s'en emparer et trouver des solutions, on est d'accord. Un enfant de 10 ans dont la famille n'a rien à voir, ni de près, ni de loin avec le trafic de drogue, est tué par balle. L'émotion, l'indignation saisissent le pays entier. Le ministre de l'Intérieur envoie sur place des policiers spécialisés dans la sécurité urbaine. À peine cette unité arrivée, un garçon de 18 ans, connu, lui, de la justice, est abattu à l'arme lourde. Provocation, posture de défi, volonté d'intimider les autorités au prix d'une vie humaine supplémentaire. On n'est sans doute même plus là. C'est là où on veut en venir, Olivier Auguste. Ce qui s'est passé en l'espace de 48 heures dans le quartier Pissevin à Nîmes le montre. Les forces de l'ordre, la justice républicaine ne concernent plus les réseaux de deal. Les forces de l'ordre, la justice ne concernent plus les réseaux de deal. Cette phrase, je vais la répéter une troisième fois. Les forces de l'ordre, la justice ne concernent plus les réseaux de deal. Ils vivent désormais dans un monde parallèle. Un monde où se faire arrêter, envoyé en prison ou même tué, est un simple risque du métier. Ôter la vie d'un rival, une règle de libre concurrence. Un monde parallèle dont les consommateurs de cannabis, de cocaïne ou de drogue de synthèse font mine d'ignorer l'existence, car si on peut souligner l'échec de décennies de politique de sécurité et débattre des avantages et inconvénients d'une légalisation des drogues dites douces, on ne peut passer sous silence la responsabilité des acheteurs qui entretiennent le trafic. Un monde pourtant si proche, Nîmes, Marseille, Besançon, Bobigny, Grenoble, Avignon, etc. Voilà. Je vous lis un petit peu et après je vous emmène sur l'encadrement d'Internet. Bien sûr! Bah, LightFR dit, désolé Samuel, mais ça fait 20 ans que c'est comme ça. Bien sûr! C'est pas une raison pour pas en parler, en espérant qu'un jour une solution soit trouvée. Merci Titi Music Live. Il y a Brent Washer qui écrit « Rappelez-moi comment le gouverneur Schwarzenegger a sauvé de la faillite l'État de Californie. Eh bien, en légalisant le cannabis et en taxant les consommateurs, nous, on préfère réduire les budgets des hôpitaux. Cherchez l'erreur. » Ça, c'est beau. Champion du monde d'athlétisme, en ce moment, il y a Tiklem qui m'a dit qu'il y a deux Françaises en finale du saut en hauteur. Okay. C'est moi où il y a, pour l'instant, il n'y a pas eu de médaille française au mondiaux de l'athlétisme. Je suis un petit peu ça. Pas encore, hein? Ah bah non. Maglite, je comprends ce que tu dis. Maglite dit, le problème, c'est que médiatiser ça, ça fait le jeu de certains politiques. Ah oui, mais ça, c'est un... C'est-à-dire que tu ne peux pas, sous prétexte de la capacité de la classe politique à s'emparer de ces problèmes qui sont... On parle de la mort d'un enfant de 10 ans. Donc on va pas passer ça sous le tapis. On est obligé d'en parler. Qui ici accepte qu'un enfant de 10 ans voit sa vie ôtée par les conséquences d'un trafic? Donc évidemment qu'il faut en parler. Et c'est pas parce que la classe politique est incapable de s'emparer efficacement de ce problème qu'il ne faut pas en parler. Voilà. Sous prétexte que ça ferait le jeu de certains représentants qui, eux, estiment qu'ils ont des solutions, et vous verrez bien quand on sera au pouvoir. Vous comprenez? Parce que dans ce cas, on ne parle plus de rien. Parce que si on ne parle plus de tous les sujets dont s'occupent mal les politiques, pardon, hein, sans faire du populisme, on ne va plus rien, on va plus parler de rien. Hein. La santé, ça ne va pas. Donc on parle plus de la santé parce que ça va faire le jeu des populistes. La sécurité, ça ne va pas. Donc parlons pas de la sécurité parce que ça va faire le jeu des populistes. L'inflation, le pouvoir d'achat, c'est une catastrophe. N'en parlons pas. Malheureux, vous allez faire monter les... Tu comprends? Donc alors, après, ça va être le JT de feu Pernod en disant « Ah, quel beau pays quand même. Regardez, nous sommes allés dans un petit fabricant de sabots du Jura qui maintient les traditions. Son échoppe vient d'être repris par son fils. C'est vraiment formidable. » Sinon, on peut faire ça si tu veux. Mais à un moment, tu vas te dire, si tu t'intéresses un peu à la marche du monde, que je ne te parle pas du pays réel, quoi. Voilà. Le pays réel, c'est ça. Donc, j'entends, hein. J'entends, j'ai pas vu ta réponse, Maïla. Attends, je reviens dans ton historique. Mais on peut pas mettre de côté certaines infos sous prétexte que les politiques s'en occupent mal. Ce que je veux dire, c'est que, toi, tu as précisé ta pensée, parce que c'est pas facile de s'exprimer par écrit, moi je parle pendant des heures. Ce que je veux dire, c'est que c'est toujours traité sous la lumière de l'insécurité et pas du véritable problème de fond. Alors ici, on parle du problème de fond. La légalisation, la dépénalisation de la drogue, on en parle tous les mois. Hein. On parle des deux. Ici, moi, je suis pas fait divers. C'est-à-dire, je pense qu'un fait divers, un drame, s'il ne pose pas une question, s'il n'interpelle pas la société sur un truc plus profond qui ne va pas, ça n'a aucun intérêt. La vie est ainsi faite que, effectivement, un journal pourrait remplir ses pages tous les jours avec les drames qui se passent dans notre pays, par exemple. Mais ça n'a un intérêt social pour qu'on échange là-dessus ensemble, que si, effectivement, ça pose un problème plus large. Ici, le problème, il est énorme. Hein. On parle du trafic de drogue et des conséquences, notamment sur la sécurité pour les Français et les Françaises. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de ce fait divers. Le mot est affreux. Pas pour faire flipper, pas pour créer les conditions de l'arrivée de partis qui affirment qu'ils ont réponse à tout parce que les autres ont failli avant. C'est pas l'idée, quoi. Merci Pépin Camille, je n'avais pas vu, pour l'abonnement offert à Rivenzi, s'il te plaît. Rookie 5926, je m'en veux un peu de la balle perdue pour Pernaud qui est décédé qui a dû se retourner dans sa tombe à l'évocation de ce JT. Je m'excuse auprès de la mémoire de Jean-Pierre Pernaud. Allez, un peu plus léger, quoique, parce que ça recouvre des problèmes aussi. L'Europe qui fait le ménage sur le net. Alors, parfois, les gens disent, mais on vient d'en parler, le politique, ça sert à quoi? Le politique, ça sert à rien. Le politique est impuissant par rapport notamment au pouvoir de l'argent, au pouvoir économique. C'est pas faux. Hein. Parfois, effectivement, le politique est impuissant par rapport au pouvoir de l'argent, au pouvoir économique. Oui, c'est possible. 800 max 008, merci pour le prime. Et parfois, le politique arrive à s'imposer au pouvoir de l'argent. Et parfois et souvent, l'Europe, ici, met en place, ça commence aujourd'hui, des règles qui s'imposent aux géants d'Internet à compter de ce vendredi. C'est le DSA, pour ceux qui suivent ce sujet, le Digital Service Act, renforce les contraintes pour les grandes plateformes et prévoit des sanctions en cas de non-respect des règles. L'Union européenne a sorti l'artillerie législative lourde face aux géants du web. Le DSA entre donc en vigueur aujourd'hui et vient corseter les pratiques des plateformes que nous utilisons au quotidien. Ce texte va concerner d'abord les plus gros acteurs d'Internet avant de s'appliquer au printemps à tous les acteurs d'Internet. Objectif, lutter contre la diffusion de contenus illégaux, yes. La désinformation en ligne, yes. Le commissaire européen Thierry Breton l'avait résumé dans les colonnes du Parisien il y a quelques mois. Désinformation, harcèlement, tout ce qui est interdit dans la vie réelle le sera aussi sur Internet. Voilà ce qu'il faut retenir de son impact sur notre vie numérique. C'est quoi le DSA ? C'est parti. Enfin une bonne nouvelle, dit Doggy dans le chat. Quelles plateformes sont concernées ? Bah, quasiment tout le monde. Merci Nebgis pour le Prime. Dis-moi l'abonnement. Merci à toi. Quelles plateformes sont concernées ? Bah, tout le monde. Hein. La Commission européenne a retenu 19 très grandes plateformes en ligne ou moteurs de recherche. Le critère, c'était au moins 45 millions d'utilisateurs européens mensuels. Google et son moteur de recherche. Search, également sa plateforme de vidéo YouTube. Ses services Maps, Shopping, son magasin d'applications Play. Le groupe Meta, concerné aussi. LinkedIn, Instagram, Facebook, Pinterest, Snapchat, TikTok. Concerné. X, anciennement Twitter, concerné. Tout comme les sites d'e-commerce, AliExpress, concerné. Amazon, Booking.com, Zalando, Bing, concerné. L'App Store, concerné. Wikipédia, c'est un peu bizarre, mais concerné, puisque plus de 45 millions d'utilisateurs européens mensuels. Je ne suis pas sûr que ce soit au niveau de Wikipédia qu'il y ait plus de soucis, mais bon. Comment la législation va se concrétiser ? Alors, ça va donner quoi ? Le règlement général sur la protection des données, RGPD, que vous connaissez, couvre depuis 5 ans déjà maintenant, c'était déjà un progrès, les abus dans le traitement ou le stockage de données personnelles. Le DSA, lui, s'attaque aux pratiques des plateformes. Les nouvelles règles vont se matérialiser sous la forme de nouveaux boutons qui vont arriver là, ou de nouvelles fonctionnalités. Ils permettront sur TikTok, Instagram ou X de signaler plus facilement les contenus haineux sans recours à une lettre ou des formulaires. S'ils refusent de retirer des contenus répréhensibles, les réseaux sociaux devront se justifier en fournissant des informations sur les possibilités de recours à l'égard de cette décision. Donc il serait, a priori, on va voir l'application maintenant, hein. On va voir aussi si cette plateforme joue le jeu, plus facile de signaler des contenus haineux par exemple. La DSA impose aussi aux plateformes de proposer aux utilisateurs un flux alternatif de contenus qui ne soit pas basé uniquement sur les algorithmes de recommandation d'entreprise. Hein ? Objectif, faire sortir l'utilisateur d'une bulle informative, fini la dictature des algorithmes basés sur les centres d'intérêt supposés des utilisateurs, place à des contenus issus de cercles élargis. Plutôt les infos de vos proches que les infos de l'algorithme. Meta, Instagram, Facebook a annoncé cette semaine se conformer aux règles du jeu. Quelle amélioration se joue en coulisses ? Moins visible pour les consommateurs, c'est la fin de l'article. Des mesures de protection vont aussi s'appliquer. Les grandes plateformes vont devoir faire preuve de plus de transparence dans leur modération. Hein ? Il a été démontré que l'autorégulation ne marche pas. Mais aussi que c'est dur de définir ce qu'est un contenu litigieux. C'est pourquoi il leur a demandé à la fois de s'auto-évaluer dans un rapport annuel et de fournir des données aux chercheurs pour mieux comprendre le fonctionnement de ces boîtes noires. Et puis côté publicité, le DSA va interdire de cibler les mineurs, notamment avec des annonces personnalisées. Quant aux sites de commerce en ligne Amazon, AliExpress, ils sont désormais tenus de vérifier la fiabilité des revendeurs qu'ils répertorient et dont ils deviennent responsables. C'est nouveau ça. Et ça, c'est l'Europe, ça, pardon. Hein. Quand je parle de parfois le politique qui arrive à prendre la main sur l'économique, sur le pouvoir de l'argent, de mettre des règles pour le bienfait des consommateurs, des citoyens, bah ouais. Le respect de ces règles sera contrôlé par des audits indépendants et récurrents. Toute infraction sera possible d'amende pouvant aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial. Et des mesures de blocage pour les récidivistes. Ça, c'est sur le papier. On va voir maintenant si les plateformes vont jouer le jeu. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Voilà. Jeannab décrit sur TikTok, je suis déjà tombé sur des contenus négationnistes, antisémites, j'ai signalé systématiquement, mais dans les trois quarts des cas, ça n'amène à rien. Alors, est-ce que ce DSA va améliorer les choses? Bocage normand, pourquoi l'Europe, la France n'est pas capable de le faire seule? C'est-à-dire qu'en fait, c'est une question de taille. C'est-à-dire que parfois on dit que la taille importe peu, ça dépend. Là, la taille importe. C'est-à-dire que quand Amazon ou X ou YouTube se fait tancer un peu gronder par la France, bon, ils vont peut-être écouter poliment. Je pense qu'ils n'en ont rien à carrer le cul. Quand l'Europe, et ce que ça représente en termes d'investissement, de marché, etc., fait la même chose, bah là, la taille compte. Voilà. Voilà. L'Europe, qui est d'ailleurs très loin en avance sur le reste du monde pour ce sujet, c'est ce que nous dit Anbi dans le chat. Beaucoup de promesses, donc à voir si ce sera tenu, bien sûr, c'est ce que dit Brian, mais ça reste intéressant. C'est mignon. Il y a Simon Murier qui nous dit bonjour, il y a un super podcast sur le sujet du marathon de Catherine Switzer sur France Culture. J'ai dû me créer un compte sur Twitch pour le poster. Je suis en décalage, mais je dois filer. Il s'appelle Catherine Switzer, le marathon de la liberté. C'est sur France Culture. Merci à toi. Bonne journée. Merci. On y arrive d'ailleurs à cet épisode du marathon. Je vous lis. Bon, on va voir ce qui va se passer. En tout cas, ça semble un progrès, quoi. Il faut que ce soit appliqué, bien sûr. C'est intéressant ce que dit Lazarette. On parle souvent de pouvoir économique pour les USA ou la Chine, mais on ne parle pas assez du pouvoir réglementaire de l'Union européenne. Quand l'UE crée la RGPD, les autres pays s'alignent. Quand l'UE crée les protections géographiques pour leurs produits, jambon de Parme, champagne, etc., les autres s'alignent aussi. Et veulent rentrer dans le même système, protéger les vins du Chili, comme les appellations françaises, par exemple. C'est intéressant. Ok, à suivre. Pierre, merci pour le 10e mois d'abonnement. C'est gentil. Et bon, on y va. Il y a quelqu'un qui, à l'instant, vient de créer un compte exprès pour nous parler de cette émission sur France Culture qui évoque cette histoire. Même si vous la connaissez, restez. Parce que elle est augmentée, cette histoire. Il y a quelque chose dedans que je ne savais pas, que je trouve super intéressant. C'est l'histoire de la première femme, c'est dans Libération, à avoir couru le marathon de Boston. C'était inscrit en cachette parce que c'était interdit. La Queen dit, c'est le marathon de Boston cesse, on est en 1967, d'être un boys club. L'histoire est géniale, la photo est géniale. Hein, vous voyez ici cette coureuse-là et l'homme derrière, là, en habit sombre, qui est l'organisateur de la course, qui essaye de sortir la marathonienne de la course. À Boston, Catherine Switzer donc change la course de l'histoire. C'était le 19 avril 1967, la jeune athlète décide de participer au fameux marathon de la ville, qui est encore aujourd'hui un des marathons les plus célèbres au monde, qui était réservé aux hommes. Spatule, merci beaucoup pour le 2e mois d'abonnement. L'organisateur, l'image elle est dingue, tente violemment de la stopper, mais elle lui échappe et termine la course, et termine le marathon, et ça va ouvrir la voie aux futures participantes. Revenons donc sur l'histoire. Le 19 avril 67, Catherine Switzer est âgée de 20 ans, elle est étudiante en journalisme à l'université de Syracuse et elle ose participer au marathon de Boston. Ça semble absurde aujourd'hui, hein, interdire à une femme de participer à un marathon, mais à l'époque, il allait de soi que les femmes, supposément incapables de tenir la distance, ne participent pas à ce type d'épreuve. C'était, voilà, on pensait que c'était bien que pour les protéger de leur santé qu'elles ne fassent pas ce genre d'épreuve en estimant que c'était trop dur pour les femmes. Voilà, c'était un peu l'avis général. Même Arnie Briggs, qui était l'entraîneur du club de cross-country dans l'université, qui avait admise Catherine parmi les garçons, n'y croyait pas. Hein. Il, l'entraîneur, me racontait sans cesse des anecdotes extraordinaires sur le marathon de Boston. Mais quand j'ai voulu le courir moi, il m'a dit « Mais non !» Les femmes n'en sont pas capables physiquement. Les femmes n'en sont pas capables physiquement. On s'est disputé sérieusement, et puis il a fini par lui dire, tu sais quoi, prouve-moi que tu peux, alors on fera Boston. Du coup, elle s'entraîne très très dur, ils s'entraînent tous les deux, et puis ils font une course test tous les deux, voilà, en plein hiver, et ils tentent de faire les 42,2 km à l'entraînement. Et elle dit, je me suis senti si bien que j'ai proposé de pousser encore de 8 km. Donc elle a fait un petit 50 bornes, parce que j'ai dit, Arnie, on doit être sûr de réussir qu'on sera à Boston. Lui, l'entraîneur n'en pouvait plus, il zigzaguait sur la route, voilà. Quand nous avons fini, je l'ai pris dans mes bras, on va à Boston, et là, il s'est évanoui, l'entraîneur s'est évanoui, de froid, il était gelé. J'adore cette histoire. Et quand il a repris ses esprits, il a dit « Mon Dieu, les femmes ont un potentiel caché d'endurance et de résistance. » Voilà. Bon. D'ailleurs, il y a des études scientifiques là-dessus qui disent que sur les sports d'endurance, notamment les sports d'endurance extrême, le différentiel, vous savez, de la force physique qui fait que bon, bah, sur des distances très très courtes, 100 mètres et autres, les temps de référence hommes-femmes sont assez différents, mais que plus la distance va s'allonger en allant vers l'ultra, hein, les courses d'ultra de dizaines voire de centaines de kilomètres, eh bien le différentiel entre les femmes et les hommes se réduit, parce qu'en fait la femme vient compenser la moindre force musculaire par des capacités d'endurance de fou. Voilà, donc il y a des études là-dessus. Bon, moi qui ai beaucoup couru à une époque et beaucoup avec des femmes, je peux vous le confirmer. Ce potentiel, le père de Catherine, donc Switzer, n'en avait jamais douté. Un militaire, major de l'armée américaine, qui est même à l'origine de l'entrée en piste de sa fille. Et sa fille qui raconte, un soir j'avais 12 ans, j'annonce à mon papa qu'une fois au lycée, je voulais être pom-pom girl, hein, parce que c'était super populaire, vous connaissez les États-Unis. Il me répond, mon militaire de père, non, tu ne veux pas faire ça, les pom-pom girls encouragent les autres. Toi, tu veux que les gens t'encouragent. Tu devrais donc courir 1 km par jour, intégrer l'équipe de hockey sur gazon de ton lycée, une toute nouvelle équipe pour les filles, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais il faut courir. Donc Catherine commence à courir 1 km par jour et elle dit, ça a complètement changé ma vie. J'étais une petite fille maigre, peu sûre d'elle, je me suis sentie très puissante et forte. Pourquoi ce sentiment de puissance? Parce qu'à l'époque, hein, on est aux années 60, personne ne courait 1 km par jour. Aujourd'hui, tout le monde court en tous les sens. Personne ne courait 1 km par jour à moins d'être un coureur de fond dans une équipe. Or moi, quand je suis arrivé au lycée, parmi ces élèves bien plus âgés, j'étais capable de ça. Et je pouvais me dire, je suis forte. Je suis aussi forte, sinon plus que toi, et tu le sais, c'était une victoire que personne ne pouvait m'enlever. Voilà pourquoi j'ai couru toujours plus loin. Et un jour, j'entends parler du marathon. Voilà, l'histoire est assez sympa. Et puis arrive le 19 avril 1967, le jour de la course. La coureuse s'en souvient très bien, et notamment de l'intervention. On le voit toujours, l'homme un peu dégarni, là en sombre, qui essaie de la sortir. Elle dit, j'ai entendu un type. Un officiel de la course au dernier moment, au bruit de ses chaussures. Comme sorti de nulle part, il m'a pris au dépourvu, et puis il m'a attrapé, m'a projeté en arrière, et soudain, son visage était en face du mien. Il a hurlé, dégage de ma course, donne-moi ce dossard, dégage de ma course, c'était en fait l'organisateur. Il me tenait par le sweatshirt, il voulait arracher le dossard, je me suis retourné pour lui échapper. Mon entraîneur Arnie, qui le connaissait, a crié « Laisse-la tranquille, elle est avec moi, je l'ai entraînée ». Mais le type est revenu vers moi, m'a attrapé l'épaule, et à ce moment-là, mon petit ami, heureusement qu'il était là, un athlète fabuleux, Tom Miller, ancien joueur de football américain et lanceur de marteau, lui a donné un coup d'épaule et a éjecté l'organisateur. On s'est mis à courir aussi vite qu'on pouvait, les journalistes sportifs étaient juste à côté, sur le camion de la presse, et étaient très hostiles. Les journalistes sportifs disaient qu'est-ce que vous essayez de prouver? Est-ce que c'est une farce? Vous êtes une suffragette, n'est-ce pas? Vous n'allez pas vraiment le finir. Ma mère m'avait toujours dit de ne jamais répondre aux gens agressifs, donc j'ai baissé la tête, je leur ai juste dit « Je vais finir, fin de l'histoire ». Avec tout ça, on avait perdu beaucoup de temps, d'adrénaline, on était au ralenti, puis l'énergie est revenue. Nous n'avons pas forcé parce que la chose importante était de terminer. On a mis 4h20, je me suis promis de faire mieux, bien mieux, et je savais que je valais bien mieux. D'ailleurs, plus tard, elle a fait bien mieux. Le lendemain, énorme écho donné à cette scène et à cette image. Hein. Sa participation et l'agression dont elle a été victime, documentée par des photos saisissantes, la belle poursuivie par la bête vociférante, en l'occurrence Jock Sample, qui était le patron de l'épreuve, font la une des journaux. Et alors, moi ce que je ne savais pas, c'est pour ça que je vous raconte cette histoire, parce que bon, cette histoire de la première marathonienne de Boston, elle est super connue, cette photo elle est mythique, voilà. Et moi, ce que je ne savais pas, c'est que ces deux-là, les deux-là, l'organisateur là, qui fait la grimace là, et qui essaie de virer Catherine de la course. Après, ils sont devenus potes. Et ça, je ne le savais pas. En 2017, à 70 ans, Catherine Switzer a de nouveau participé à la course de Boston pour fêter les 50 ans de son premier marathon. Jock Sample, son agresseur, est mort en 88, lui. Le plus étonnant, c'est qu'elle ne lui en a jamais vraiment voulu. Dès ses premières interviews, elle le dit, produit de son époque. Et aujourd'hui encore, rappelle la trajectoire difficile de cette immigrée d'origine écossaise élevée dans les bidonvilles de Glasgow, qui a dû se battre tous les jours quand il était enfant, mais aussi en Amérique pour réussir. Et il y est parvenu, il s'est mis à courir, ce qui était sa joie. Patron de l'épreuve des années 50 jusqu'au début des années 80, Sample a encouragé les coureuses dès lors qu'elles ont été officiellement admises à y participer. Sample et Switzer sont même devenus amis. Et ça, je ne l'avais jamais lu, ça. C'est incroyable. Regardez, tout les sépare, là. Hein. D'un côté, une révolution, une première femme à Boston, et de l'autre, une espèce de représentant de la norme, de l'ordre établi, grimaçant. Voilà. Et puis, regardez-les, les deux même un peu plus tard. Là. Voilà. Les deux larrons en foire, en fait. Lui, reconnaissant qu'il s'était trompé, qu'en fait, les femmes avaient bien sûr toute leur place dans une course comme le marathon, voilà. Juste qu'il était le produit d'une époque, d'une norme de l'époque, et elle, justement, ne lui en voulant pas, pour ces mêmes raisons. C'est pas mal, non? Moi, je trouve ça assez chou, quoi. Voilà. Et c'est... Il y a presque un dialogue générationnel, parce que vous voyez bien que ces deux personnes ne sont pas du tout de la même génération. Et en fait, elle a eu l'intelligence de comprendre que, lui, il pensait aussi comme ça, parce qu'il était le produit de sa génération, et qu'il y avait peut-être un dialogue à instaurer pour faire progresser tout le monde, ce que lui a réussi à faire au final. Mais il faut ce dialogue. Et il faut que ceux qui sont partisans, c'est là où je veux en venir, dans une société donnée d'une évolution, puissent, sachent tendre la main à ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, pour diverses raisons, notamment parce qu'ils sont peut-être d'autres générations, pour qu'un dialogue se produise et que de ce dialogue naisse une évolution. Mais si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, vous ne changez pas la société, en fait. Voilà, je trouvais ça mignon. C'est pas mal, hein? Oh, oui, c'est mon ventre vide qu'on entend, tout à fait. Désolé. Il y a Joe Mololo qui dit non, moi je préfère dire OK Boomer. Encore faut-il que les vieux soient prêts au dialogue. Petit Dieu, bien sûr. Si on suppose que c'est un clivage vieux-jeune, ce qui n'est pas toujours sûr, hein, parce que parfois il y a des vieux progressistes et des jeunes réacs, hein. Mais à supposer que ce soit un clivage vieux-jeune, encore faut-il que les vieux aient envie d'échanger, et encore faut-il que les jeunes aient envie aussi d'échanger. Alors que parfois c'est pas possible. Hein. Rosa Parks n'a pas vraiment dialogué, Martin, on est bien d'accord. Rosa Parks n'a pas dialogué parce que personne n'était en capacité dans le camp d'en face de dialoguer avec Rosa Parks, bien sûr. Elle a bien raison de faire ce qu'elle avait fait. J'avais compris que c'était de l'humour, Joe Mololo. J'avais bien compris. Les amis, merci. Je file. Je filoche. Et vous donne rendez-vous. Où est-ce qu'il est mon visuel? Ce soir, à 20h, soyez là au rendez-vous pour la rentrée. C'est parti, la saison 2. De l'hebdo Étienne, voilà, on va se régaler, ça va être une super belle émission, de jolis thèmes, de super invités, et puis voilà. Donc là, je vais bosser tout l'après-midi parce que on a mis plein de choses nouvelles en place au niveau du son, de l'image, de blablabla, la déco et tout. Je reçois plein de trucs depuis plusieurs jours. Il faut que je mette tout ça en place. Joe va me rejoindre cet après-midi. J'espère que ça va être sympa. Il y aura des pains techniques, c'est obligé. On met trop de choses nouvelles en place ce soir avec Joe. Notamment au niveau technique, pour qu'il n'y ait pas des pains. Il va y avoir des pains d'image, des pains de... C'est obligé. Si on n'a pas, on est béni des dieux. Mais en vrai, là, on a vraiment bossé. On a bossé tout l'été, hein, pour améliorer. J'espère que ça va bien se passer. Le stream. Alors, certains me disent que j'ai oublié l'horoscope. Eh bien, vous avez complètement raison. J'ai oublié l'horoscope. Je vais aller le chercher tout de suite en direct live. Si je retrouve ma souris. Qui dit en direct live? Putain. Faut vraiment avoir 90 ans, quoi. Hop, là voilà, petite capture d'écran. Hop. Et alors, une petite question d'actu pour vous départager. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous poser comme question d'actu? C'est le jeu de l'horoscope, c'est le plus rapide. La plus rapide à me donner son signe astrologique dans le chat. Je lui lis son signe, ça n'a aucune valeur scientifique, ça nous fait marrer. Question d'actu. Ok, il me faut dans la ligne de votre réponse, votre signe et la bonne réponse. Dans quelle ville s'est tenu le sommet des BRICS? Quelle ville plus votre signe? C'est parti. Johannesburg, c'est bon. Johannesburg, c'est une bonne réponse. Alors attention, Johannesburg, quelle orthographe? Parce que je suis. C'est comme ça que je départage les gens. Johannesburg, un N ou deux N? Un N ou deux N? Parce que j'ai des réponses avec un N et des deux N. Ici. Mais il est où le. Il est là. Tout cassé. Brix, Johannesburg, deux N. Ce qui veut dire que pourquoi TV, qui a été le plus rapide avec Scorpion, mais ne m'a mis qu'un N à Johannesburg, eh bien laisse la place, je suis désolé pourquoi TV, à Erzilled. Et non! Ah! Bah non! Oui, c'est ça, Lyon, on est d'accord. C'est ça, on est d'accord. Je regardais l'avare des modos, mais ils sont d'accord avec moi. Donc, laisse la place à Erzilled, Lyon pour Johannesburg avec deux N. Simon Lewis s'est précipité et m'a donné un Johannes Gouge. C'est trop mignon. Mais pourquoi French Yu-Gi-Oh! A supprimé le message d'Erzilled qui a gagné? C'est un misclic. Il y a French Yu-Gi-Oh! Qui vient de supprimer la réponse d'Erzilled, Lyon-Johannesburg. Porqué, 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 porqué. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai raté? Misclic. C'est bien Erzilled. C'est un misclic, j'en étais sûr. Ah, ils sont parfaits. C'est les meilleurs modos du monde. Lyon donc pour Erzilled. Alors Lyon, cœur, bonne humeur. Dans la vie familiale et sentimentale. Oh, ouais. Vous avez bien fait de gagner, Lyon, parce que c'est un bel horoscope. Bonne humeur dans la vie familiale et sentimentale. Réussite. Vous ferez preuve de plus de recul que d'ordinaire et vous pourrez réagir avec plus de calme. Ça va bien, les Lions. Attention. Est-ce que la forme est au même niveau? Prenez le temps de vous reposer. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Les amis, donc merci. On se retrouve ce soir. Je compte sur vous pour la première de l'Hebdo Étienne. Et maintenant, on fait un raid. Je vous laisse me proposer là maintenant, tout de suite, dans le chat, des noms de streamers, de streameuses qui sont en live actuellement et qu'on va aller soutenir. J'ai déjà vu des propals. Je vous mets 2 minutes de musique. C'est parti avec ça. Et après, dans 2 minutes, on raid tous ensemble. Qui on raid? Bah, c'est vous qui allez me le dire. À tout de suite. Bande de belles personnes. On va où? On règle dans 30 secondes. 4 secondes. Allez bien cette chanson, mais le temps imparti est terminé. Vous m'avez proposé, vous avez été nombreux à le faire, de Red aujourd'hui. Sunday, alias Lady Sunday, la streameuse qui est en live actuellement et qui nous rejoint ce soir pour la première fois dans l'Hebdo Etienne. Eh ben, c'est une très bonne idée, comme ça certains d'entre vous vont faire connaissance avec cette streameuse que j'aime beaucoup et qui nous rejoint ce soir. Passez-lui un petit coucou de ma part, dites-lui à ce soir, et ben pour vous, à maintenant. Le Red part dans 5 secondes. Je vous dis à ce soir, prenez soin de vous, soyez heureux, rendez les autres heureux autour de vous. À ce soir pour l'Hebdo Etienne, le grand retour. Ciao, ciao.